Vous écoutez
RMC.
Un excellent réveil à toutes et à tous. Vous êtes sur RMC, vous avez fait le bon choix.
RMC, Apolline Matin.
Il est à 7h et c'est l'heure du journal de Thibaut Texer. Bonjour Thibaut.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Faut-il taxer les super profits de crise? Les socialistes le réclament après les bénéfices records de Total Energy à l'heure où le baril de pétrole continue de flamber autour des 125$. Ce matin, il risque de blocage prolongé du détroit d'Ormuz. Un enfant de 10 ans attaqué par des chiens hier dans l'Oise. Ses jours ne sont plus en danger ce matin. Et le PSG qui se tourne vers sa demi-finale de Ligue des Champions. Retour à Munich la semaine prochaine. Ce sera sans Hakimi, blessé.
Le baril de pétrole est en train, en ce moment même, de s'envoler ce matin, au plus haut depuis la guerre en Ukraine.
On est autour des 125$. C'est un record depuis 2022. La situation ne devrait pas s'arranger. Donald Trump évoque la perspective d'un blocus prolongé en Iran de plusieurs mois, avec des conséquences forcément attendues à la pompe dans les jours à venir. La situation profite en tout cas aux pétroliers. C'est le cas de Total Energy qui a engendré des bénéfices records, 5,8 milliards de dollars au premier trimestre de l'année, ne comptant pourtant qu'un seul mois de guerre. Et le sujet agite la classe politique socialiste en tête. Ils ont déposé, Thomas Becker, une proposition de loi pour taxer de manière temporaire les super profits.
Oui, dès l'annonce des profits records de Total, le PS dégaine sa taxe. Une mesure de justice pour le député socialiste Arthur Delaporte, censé rapporter 2 milliards d'euros.
Il faut mettre à profit ces profiteurs de crise pour refinancer les caisses de l'État et pour redistribuer cet argent aux Français qui en ont assez de payer pour les actionnaires de Total.
Devant les sénateurs, le Premier ministre ne ferme pas la porte.
Il faut bien que Total Energy se positionne d'une manière ou d'une autre sur une manière de redistribuer et potentiellement de la manière la plus efficace qui soit, de la manière la plus rapide.
Aussitôt dit, confirmé par Total, qui prolongera bien son plafonnement des prix à la pompe, sans préciser pour l'instant le montant exact. Il faut reconnaître que ce blocage est une protection unique au monde, lâche un conseiller de l'exécutif, d'où le mot d'ordre au gouvernement. Pas de Total bashing. Si c'était l'État qui bloquait les prix à ce niveau, ça nous coûterait au moins 500 millions d'euros par mois. Là, c'est Total qui paye, enfonce le même conseiller. Tenu par le déficit, le gouvernement se limite à des aides ciblées, aides qu'il va très certainement devoir prolonger au-delà du mois de mai. Emmanuel Macron a déjà préparé les esprits, affirmant que le contexte géopolitique était hautement incertain.
Et c'est dans ce contexte sur fond de guerre au Moyen-Orient que l'INSEE doit annoncer ce matin la croissance en France au premier trimestre de l'année. La guerre dans les conditions du réel, dernier exercice d'ampleur ce jeudi pour Orion, en présence d'Emmanuel Macron dans l'Aube et dans la Marne. 12 500 militaires sont mobilisés depuis le mois de février dans des opérations fictives visant à simuler une situation de conflit sur le sol français.
Il est 7h03 sur RMC, un enfant de 10 ans hospitalisé dans l'Oise, mordu par deux chiens.
Deux molosses appartenant au voisin du petit garçon souffrant de 5 morsures au bras, aux jambes et au cuir chevelu. Ses jours ne sont plus en danger. Ce matin, ça s'est passé hier en début d'après-midi dans la commune de Russie-Bémont. Amélie Courtet.
L'enfant et 3 autres garçons du village jouent dans un petit bois à côté de l'église quand ils croisent 2 gros chiens de la race Canet Corso.
Les propriétaires des chiens étaient en train de soigner leur volaille.
Décrit le maire François Philippon.
Lorsque les chiens ont échappé à leur surveillance et ont agressé les enfants.
3 parviennent à se hisser sur les branches d'un arbre, le 4e n'a pas le temps. Il est gravement blessé, 4 morsures sur les jambes et les bras, 1 au cuir chevelu. Mais le maire insiste.
Les jours de l'enfant ne sont pas en danger.
On ne s'explique pas ce qui s'est passé, lâche-t-il. L'enfant connaissait les molosses.
Ce ne sont pas des chiens considérés comme dangereux. Ce sont 2 chiens qui sont parfaitement dressés.
Reste que l'attaque laisse des traces.
Tout le monde est très affecté. Dans le village, c'est un gros choc. C'est un village où il y a beaucoup d'enfants, donc c'est inquiétant, quoi.
D'après ses derniers échanges avec les parents, l'enfant blessé va être transféré prochainement à l'hôpital d'Amiens au service de chirurgie réparatrice.
On va y revenir sur cette affaire. 2 canets corso, 2 molosses qui ont attaqué un gamin de 10 ans aux membres, sur le crâne. Inquiétude évidemment pour cet enfant dans la commune, même si ses jours ne seraient plus en danger. On va appeler le vétérinaire Christian Diaz, vétérinaire expert en justice. Ce sera à 7h40 tout à l'heure.
Dans le Rhône, un père de famille de 40 ans a été mis en examen hier pour viol et agression sexuelle sur 34 mineurs, de jeunes enfants, de jeunes garçons âgés de 3 à 9 ans, des copains de ces enfants agressés lors d'anniversaires ou de soirées pyjama organisées au domicile du père de famille entre 2020 et 2024. La réponse de Nicolas Sarkozy à Claude Guéant, l'ancien président, était de retour à la barre une toute dernière fois hier à son procès en appel dans l'affaire présumée du financement libyen de sa campagne en 2007 et n'a pas manqué, Julie Brault, de répondre aux accusations de son ancien bras droit.
Oui, tel un équilibriste, Nicolas Sarkozy campe sur ses positions. Je ne dis pas que Claude Guéant ment, mais sa mémoire a pu évoluer et nous ne partageons pas les mêmes souvenirs, ironise l'ex-chef d'État. Et pourtant, son ancien bras droit est catégorique. Nicolas Sarkozy lui a expressément demandé d'examiner la situation judiciaire d'Abdallah Senoussi, alors numéro 2 du régime libyen, et sous le coup d'un mandat d'arrêt international pour terrorisme, un point central du dossier, car ce serait justement l'une des contreparties du pacte de corruption présumé établi avec la Libye. Mais c'est à se taper la tête contre les murs. Il n'a jamais été question de gracier Senoussi, s'agace finalement Nicolas Sarkozy, qui, une fois de plus, au cours de ce procès, lâche son ancien lieutenant.
L'inquiétude du ministère des Affaires étrangères pour les ressortissants français au Mali.
Il serait environ 4000 à qui le Quai d'Orsay recommande de prévoir un départ temporaire dès que possible. En cause, la situation sécuritaire extrêmement volatile sur place en raison d'attaques menées dans plusieurs villes du pays par des groupes djihadistes et Touareg. La capitale, Bamako, est désormais menacée. Elle va tomber, dit d'ailleurs l'un des porte-parole Touareg pour RMC, Marion Gauté, a pu s'entretenir avec certains Français qui refusent de tout abandonner.
Difficile d'imaginer la capitale malienne tomber aux mains des groupes terroristes pour Laurent. Impensable aussi de quitter le pays. Pour aller où, dit-il ?
Ils nous disent, ok, il faut quitter le pays le plus tôt possible. Ben, ils nous donnent aucune aide spéciale. Bon, moi, tous ceux que je connais n'ont pas l'intention de rentrer pour l'instant, quoi.
Reste l'incertitude alors que les assaillants ont déclaré un blocus autour de Bamako.
Donc, si vraiment ils ont fermé Bamako, c'est sûr que tôt ou tard, la pénurie va se faire ressentir. C'est surtout ça qui nous inquiète. Hein.
Les Touaregs réclament l'indépendance du Nord-Mali. Les djihadistes comptent instaurer la charia. Ils veulent la fin de la junte au pouvoir depuis le coup d'État de 2021, explique Caroline Roussy. Elle est directrice de recherche à l'IRIS.
La junte au pouvoir a fait exactement ce qu'elle reprochait aux Français, c'est-à-dire qu'elle a investi sur le tout militaire au détriment du développement. Dans certaines zones du Mali, les populations paysannes ont été profondément affectées par la corruption. C'est une des raisons pour lesquelles un certain nombre ont pu rejoindre les groupes terroristes.
Et si le président malien a reconnu l'extrême gravité de la situation, il assure qu'elle est maîtrisée.
Le Quai d'Orsay qui recommande de prévoir un départ le plus vite possible. Alors sans rapatriement organisé, il y a encore des vols. Je sais pas, vous avez des proches sur place, ça vous inquiète? Passez-nous un petit coup de fil ce matin au 32-16.
Un défi ce soir pour Strasbourg sur la pelouse du Rayo Vallecano en Espagne, demi-finale aller de Ligue Conférence à vivre sur RMC dès 21h. Il n'y a pas eu de vainqueur hier soir en Ligue des Champions entre l'Atlético Madrid et Arsenal, engagé dans le dernier carré de la compétition, un but partout. Et puis mauvaise nouvelle pour le Paris Saint-Germain qui va devoir se passer d'Achraf Hakimi, blessé. Le défenseur Arthur Perrault ne participera pas aux demi-finales retour de Ligue des Champions la semaine prochaine à Munich.
Oui, c'est un sacré coup dur pour le champion d'Europe en titre. Il va devoir faire sans Achraf Hakimi pour le match retour prévu mercredi prochain en Allemagne. Le défenseur s'est écroulé au sol mardi soir en fin de match au Parc des Princes contre le Bayern Munich avant de terminer la rencontre en marchant. Les examens réalisés hier après-midi ont confirmé une déchirure aux ischio-jambiers. Le joueur marocain sera absent entre 2 semaines et demie et 3 semaines. Selon le PSG, il va rester en soins ces prochaines semaines. Mais en cas de qualification pour la finale, Hakimi devrait être présent. Sa participation cet été à la Coupe du Monde n'est pas en danger. Mais les mauvaises nouvelles ne s'arrêtent pas là pour le Paris Saint-Germain. Le gardien remplaçant Lucas Chevalier s'est blessé à la cuisse droite à l'entraînement. L'international français manquera lui aussi la demi-finale retour de Ligue des Champions.
À retenir enfin la nouvelle performance d'Arthur Fils à 2 semaines de Roland-Garros. Le tennisman français s'est qualifié pour les demi-finales du Masters 1000 de Madrid. Ce sera demain face au numéro 1 mondial, Yannick Sinner.
Merci beaucoup Thibaut Texer. On va accueillir Jérémy qui est à Dax dans les Landes au 32-16 ce matin sur le sujet, un des sujets de débat, mais c'est le grand sujet ce matin. Est-ce qu'il faut taxer Total, est-ce qu'il faut taxer les super profits? Total qui a annoncé hier 5 milliards de bénéfices sur le premier trimestre 2026. Bonjour Jérémy.
Bonjour tout le monde.
Vous dites on peut pas aller taxer une société qui fait des bénéfices pour des raisons, Jérémy, pour des raisons de principe?
Pas des raisons de principe, mais c'est une société qui fonctionne, qui gagne de l'argent. C'est normal. Bah, ils font des super profits, bon, là, sur le moment, parce que c'est l'actualité. Mais dans ce cas-là, c'est plus une société, c'est une association loi de 1900.
Mais vous ne pensez pas, Jérémy, que s'il y a des bénéfices, on va dire, qui sont exagéré, je mets des guillemets, chacun interprétera comme il veut. Je suis sûr que beaucoup de Français ont des actions Total et sont ravis ce matin, par exemple. Mais une société qui fait des bénéfices hors normes, dirons-nous, on ne peut pas réguler un peu quand les Français galèrent avec un gasoil à 2,20 ?
Je suis d'accord avec vous. Sur le principe, oui, ils font des des bénéfices exceptionnels à l'instant T, parce qu'il y a la guerre. Mais quand il n'y a pas la guerre, que le baril était au plus bas, qu'il gagnait beaucoup moins d'argent, personne n'en parlait.
Oui, ouais, on ne parle pas d'une entreprise qui était en déficit les années d'avant non plus.
Oui, tout à fait. Mais moi, à l'heure actuelle, j'ai plus de problèmes à donner de l'argent à mes politiciens qu'à Total.
Oui, c'est les taxes, vous, Jérémy. Alors, ce que dit Philippe Brun, le député socialiste qui propose de taxer Total, c'est que cet argent pourrait servir à une baisse de la TVA. Dans quelle mesure et de quelle manière, je lui poserai la question, parce que taxer les bénéfices ou attendre que l'année soit écoulée, c'est pas avant l'année prochaine. Hein. Je veux dire, en attendant, les prix à la pompe resteraient les mêmes, j'imagine. On lui posera la question, Jérémy, Philippe Brun, qui sera mon invité à 7h40 tout à l'heure. Merci de votre appel au 32-16.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Il est 7h11. Vos enfants ont-ils craqué pour le MMA, sport de combat à la mode? Un entraîneur fait polémique dans une vidéo qui fait scandale. On le voit asséner de grands coups de pied dans le torse de gamins d'à peine 10 ans. Mais pour notre consultant MMA Baba Diagne, ce sport peut être pratiqué par des enfants. Il va nous expliquer comment, surtout, c'est son parti pris sur RMC et RMC Story dans un instant. À tout de suite.
RMC jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Mathieu Béliard.
Il est 7h14 sur RMC et RMC Story. Vidéo polémique dans le Rhône autour du MMA, le sport de combat qui combine plusieurs arts martiaux. Vous commencez à connaître, c'est très violent, très spectaculaire. C'est sympa à regarder. Un entraîneur de MMA qui donne de grands coups de pied dans le torse de gamins d'une dizaine d'années. Chacun l'entoure, ils encaissent, ils tombent plusieurs mètres en arrière. Il s'agit d'un entraînement assumé par ce coach et validé par les parents. Bonjour Baba Diagne.
Bonjour.
Vous êtes consultant MMA pour RMC Sport. Merci de nous répondre ce matin. C'est pas la première fois que cet homme est mis en cause, on va y venir. Mais ce matin, c'est votre parti pris. Le MMA est un sport qui peut être pratiqué par des enfants. Baba Diagne, d'abord, cette vidéo, vous l'avez vue. Est-ce que vous pouvez nous la décrire avec votre regard professionnel?
Oui, bien sûr, j'ai vu la vidéo, hein, comme tout le monde. C'est vrai que quand j'ai vu passer la vidéo la première fois, je l'ai vue sans plus. Sans y prêter attention, parce que j'avais déjà entendu parler de la personne, et je sais que c'est une personne qui est sur Internet aussi pour essayer un petit peu de créer du buzz. Maintenant, c'est vrai que la vidéo est choquante, parce que c'est fait sur des publics qui sont relativement jeunes. Pas pour défendre le coach, mais en tout cas au niveau des coups de pied, moi qui suis dans ce milieu-là depuis presque 30 ans maintenant, ce sont pas exactement des coups de pied qui sont portés, c'est ce qu'on appelle des push kicks. Donc en fait, il va venir pousser avec la pointe de son pied sur les enfants. Hein, je tiens quand même à le préciser parce que je veux qu'on soit précis sur les propos qu'on aura aujourd'hui. Simplement, c'est vrai que voilà, la vidéo est quand même choquante malgré tout parce que les enfants sont très jeunes, ils sont petits, donc ça va loin, c'est impressionnant.
Alors on est en plein dans une filière qui est en train de s'organiser. Il faut dire que c'est quand même assez récent et assez nouveau sur le territoire français. Pour l'instant, c'est une fédération rattachée à la fédération de boxe. Il y a des encadrants qui sont formés. Alors cet entraîneur justement, Yom Yidaix, c'est son nom, il est passé entre les mailles du filet?
A priori, oui. Hein. Moi, si j'en crois Lionel Rézéfin, qui est le responsable de la fédération française de MMA, apparemment ce coach n'est pas diplômé au sein de leur fédération. Donc effectivement, il n'a pas suivi visiblement les formations qui sont proposées par la fédération française de MMA.
Oui, il s'était déjà illustré. Il y avait déjà eu un bad buzz, pour reprendre l'expression. En 2023, on le voyait mettre des grands coups de pneus sur les abdos d'adolescents plus grands, 12-16 ans. Il y avait eu des protestations jusqu'à l'international. Alors, je voudrais rappeler votre parti pris. Vous dites, le MMA est un sport qui peut être pratiqué par des enfants. Il y a des sections MMA Kids. Rassurez-moi, les règles sont un peu différentes que ce qu'on voit pour les adultes?
Les règles sont totalement différentes que ce qu'on voit pour les adultes. Déjà, pour les règles pour les adultes, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui pensent encore que tous les coups nous sont permis. Ce n'est pas le cas. Tous les coups ont été permis pendant peut-être un an, en 1993. Depuis, c'est largement plus le cas. Pour revenir sur les enfants, en dessous de 14 ans, on n'a pas le droit de porter les coups. Donc pas de percussion, pas de coup de pied frontal ou coup de pied latéral sur le genou. Sur le corps et la tête, pas de coup de genou, pas de frappe au sol. Pas de frappe au corps, au sol avec le poing. Enfin, il faut fermer le poing et on peut pas porter les coups. Il n'y a pas de percussion avec les jambes depuis le sol. Pas de piétinement des pieds de l'adversaire, etc. On ne peut pas soumettre son adversaire non plus en dessous de 14 ans. Donc on ne peut pas l'étrangler, on peut pas lui faire de clé de bras notamment. Et de choses comme ça. C'est un sport qui est très régulé, tout comme la boxe anglaise éducative ou la boxe thaï éducative, c'est la même chose.
Alors, parce que pour le coup, on a pu être un peu... quand on connaît pas bien, si vous voulez, ici, on a déjà eu plein de débats sur les chocs dans le rugby. On a même eu un débat sur les têtes dans le football. Et quand on voit voilà, ces coups poussés, comme vous disiez, push-kick, pour reprendre l'expression Baba Diagne.
Oui, c'est bien ça.
J'ai appris un mot. On était un peu surpris. Pas autant que quand on a entendu que les parents assistent à l'entraînement, ils consentent, ils sont satisfaits de la pratique. Je vais vous citer un papa quand même. Si on était gêné par quelconque agressivité malsaine, on retirerait nos enfants. Nos enfants sont plus costauds, plus sûrs d'eux dans la cour de récré. Par contre, c'est vrai, c'est tonique, mais dehors, c'est tonique. Il ne s'agit pas de dresser les gamins à la violence de l'extérieur quand même.
Bah voilà, après c'est ça va être le point de vue des parents qui sont là-bas, qui j'imagine connaissent le coach depuis un certain temps et lui font confiance. Ça, c'est libre à chacun d'éduquer ses enfants et de les mettre dans des sports qu'il faut. Maintenant, faut les protéger. Mais c'est pas la pédagogie qu'on souhaite. En tout cas, c'est pas celle au niveau du coaching national. Quand on va suivre certaines formations, quand on va avoir certains diplômes. Moi, je suis diplômé d'un diplôme d'État de la jeunesse, de l'éducation physique sportive. Vraiment, ce qu'on apprend, ce qu'on essaie de véhiculer comme valeur. Donc oui, quand j'entends que c'est pour de base, on fait un sport de combat, c'est pas pour pouvoir se défendre à la cour de récréation. On va avoir des valeurs qui sont beaucoup plus mentales et morales, le dépassement de soi, etc.
Ce qu'il faut développer, en tout cas, si vous voulez préserver la discipline.
Je crois qu'il les prône aussi. Hein.
Voilà, c'est une discipline qui est en plein développement, la filière MMA Kids, il faut de la réglementation. Mais merci Baba Diag d'être venu nous expliquer, puis analyser finalement cette vidéo qui a fait le tour des réseaux. Consultant MMA pour RMC Sport, Baba Diag en direct avec nous ce matin. Il est 7h19. Et dans un instant, on va remonter le temps. On monte l'histoire avec vous, Arthur Chevalier. Bonjour Arthur.
Bonjour Mathieu.
Alors, le Master Poulet de Saint-Ouen a fait polémique. Et la chaîne spécialisée dans le poulet grillé va ouvrir un nouveau resto en plein Paris.
Ben oui Mathieu, parce que les fast-foods, en fait, c'est vieux comme le monde. Il y a 2000 ans, les Romains avaient déjà des menus best-of.
Et puis à 8h30, le face-à-face avec Alain Bauer, professeur émérite de criminologie. Et puis attention, dans 5 minutes, Arnaud Demange vient pirater l'interview. À tout de suite.
RMC, Apolline Matin.
Il est 7h20 sur RMC et RMC Story. Quand l'histoire éclaire notre actualité avec Arthur Chevalier, on revient sur ce qui était la polémique du début de la semaine, le Master Poulet, cette chaîne de fast-food de poulet grillé qui progresse malgré les polémiques. On a appris avant-hier que la chaîne de restauration rapide allait ouvrir une enseigne de plus en plein centre de Paris.
Eh oui, Mathieu. Alors, pour rappel, la polémique de la semaine, c'était donc l'ouverture dans le centre de Saint-Ouen d'un fast-food spécialisé dans la volaille grillée, Master Poulet, vous l'avez dit. Sauf que le maire de Saint-Ouen, Karim Bouamrane, lui veut faire fermer cet établissement. Alors, il a plusieurs arguments. D'abord, pour lui, Master Poulet n'aurait pas les autorisations pour son ouverture. Ensuite, il veut moins de fast-food dans son centre-ville. Et enfin, Master Poulet vendrait de la malbouffe. De l'autre côté, des habitants et des élus La France Insoumise vantent, eux, les prix très abordables de Master Poulet et dénoncent la gentrification du centre-ville.
C'est un vrai débat d'urbanisme, finalement, derrière ce sujet. Mais est-ce que les fast-food ont toujours provoquer autant de polémiques, Arthur?
Eh bien, pas du tout. Pas du tout. Les premiers fast-food, déjà, c'est très ancien, hein, et ça n'avait pas spécialement mauvaise réputation. Il y a 2000 ans, à Rome, il y avait des fast-food, ça s'appelait des thermopoliums. Le concept était exactement...
Ça veut dire poulet chaud?
Non, on fera du latin plus tard. Le concept était le même qu'aujourd'hui, Mathieu. Donc, en fait, vous étiez servi au comptoir, et le menu best-of de l'époque, eh ben, c'était déjà une boisson, du vin ou de l'eau chaude, et un plat... De la viande, du poisson, des olives. Le principe de ces établissements, c'était déjà que c'était pas cher, donc en fait pour les plus modestes. Mais apparemment, la nourriture était de qualité.
Il a l'air bien, votre menu best-of. Ça ne posait de problème à personne?
Si, ça a fini par poser problème. Un empereur romain qui s'appelait Claude va justement finir par les interdire, du moins essayer parce que ça n'a pas vraiment marché. Et ça rejoint exactement le débat d'aujourd'hui, Mathieu, parce que ce que voulait cet empereur, c'était éviter les rassemblements populaires dans des lieux publics. Il avait même prétexté l'ivresse des clients. Donc vous voyez, le fast-food, c'était déjà une question sociale.
Et puis en France, il y avait des établissements comparables?
Mais bien sûr, hein, au Moyen-Âge, c'était même assez fréquent. Dans les grandes villes, à Paris par exemple, il y avait des marchands ambulants qui vendaient ce qu'on appellerait aujourd'hui de la street food.
De la street food, c'était quel genre de nourriture pour le coup?
C'était un peu spécial, hein, parce que là on parle du 14e siècle, donc c'était pas comme maintenant. On vendait de la purée de pois, des beignets, des gâteaux, des gaufrettes.
On était anglais en fait à l'époque.
On était déjà anglais. Et la pratique va évidemment perdurer, hein. Ensuite, tu auras les fameux bouillons, vous savez, qui ont aujourd'hui la cote. Et en 1900, à Paris, par exemple, vous aviez des marchands de soupe en pleine rue.
Et en France, quand est-ce qu'arrivent les premiers fast-food, comment dire, à l'américaine, comme on les connaît?
Eh bien, c'est très référencé, puisque c'est en 1961, c'était à Paris, et ça s'appelait le Wimpy. Ça a été monté par un Français qui s'appelait Jacques Borel. Jacques Borel, c'est aussi l'inventeur du ticket restaurant, figurez-vous. Wimpy, c'était une franchise de fast-food, justement, d'origine anglaise, Mathieu, mais qui avait été créée à Chicago. En gros, ça ressemblait à un McDo, hein. On mangeait des burgers et des frites. Le premier vrai McDo, lui, ouvre en 1972. c'était à Créteil. Et figurez-vous que la firme américaine avait adapté son offre à la culture française parce qu'à l'époque, on pouvait avoir un verre de vin avec son burger.
C'était pas idiot.
Non, c'était pas idiot.
J'étais en train de me projeter là, dans un verre à pied, peut-être. Ou dans un gobelet en carton.
J'ai pas la ref, je m'en renseigne pour demain.
Petite bouteille, j'en sais rien, la villageoise. Merci beaucoup, Arthur Chevalier. On vous retrouve en podcast, vos chroniques, sur l'application RMC. Il est 7h23.
RMC.
Demanche Pirate, le face-à-face.
Bonjour Arnaud Demanche.
Bonjour Mathieu Béliard et les amis.
8h30, tout à l'heure sur RMC et BFM TV, l'invité du face-à-face est Alain Bauer.
Ah oui.
Professeur émérite de criminologie.
Oui, ça fait du bien d'avoir des repères comme ça dans un monde en total bouleversement. Alain Bauer est là pour nous expliquer des trucs. L'Iran, Alain Bauer peut nous l'expliquer. Le détroit d'Ormuz ferme, Alain Bauer peut nous l'expliquer. Le détroit d'Ormuz ouvre, Alain Bauer peut nous l'expliquer. Comment faire une bonne mayonnaise ? Alain Bauer, connaît quelqu'un qui peut nous l'expliquer. Et c'est vous, Mathieu. Non, mais il connaît tout, Alain Bauer.
Il a fait un livre de cuisine, Alain Bauer. Non, mais il a vraiment fait un livre sur la gastronomie.
Je le lirai, ça doit être forcément génial. Toutes les analyses sont bien. Alors. Non, mais il connaît tout. Vous savez, moi, maintenant, je l'utilise dans la vie de tous les jours. Maintenant, Alain Bauer, quand je ne sais pas, je lui demande un truc. Hier, j'ai eu un accrochage en bagnole. J'ai appelé Alain Bauer pour savoir quoi faire. Alain Bauer répare, Alain Bauer remplace. Bonjour. Écoutez Arnaud, si vous avez un impact sur votre pare-brise inférieur à une pièce de 2 euros, il faut lui injecter de la résine spéciale. Oh, merci Alain Bauer. Efficace et pas cher. C'est Alain Bauer que je préfère. Alain Bauer. Vous savez qu'Alain Bauer est cité 237 fois dans le rapport de Charles Allonge sur l'audiovisuel public. Il a ruiné le budget cadeau de questions pour un champion. Il gagne tout le temps. Il bouffe 20% du budget de France Télé à lui tout seul. ChatGPT, Mathieu. C'est Alain Bauer dans une cave devant 12 claviers qui répond aussi vite qu'il peut à ce qu'on lui demande. Donc ça va être très intéressant de l'entendre, notamment sur la tentative d'assassinat contre Donald Trump. Le replay de l'interview va faire le tour du monde parce que il y a tellement de gens qui détestent Trump, ils vont être là avec leur petit stylo, leur petit calepin à prendre des notes quand Alain Bauer va lister toutes les failles de sécurité qu'il a identifiées. En fait, si on emballe un pistolet dans du papier alu, les portiques de sécurité ne sont pas... Oh, ok.
Je note.
Non mais limite, il pourrait devenir influenceur avec des tutos où il expliquerait comment déjouer la sécurité de tous les dirigeants du monde. Salut la commu, aujourd'hui, on va voir comment supprimer Kim Jong-un avec seulement 2 élastiques, un cure-dent et un peu de pâte à fixe. Merci Alain Bauer. On part en Iran ?
Ah bah allez, on y va.
Allez, Donald Trump a déclaré « Monsieur gentil, c'est terminé ». Parce que jusqu'à présent, il était gentil. C'était des bombardements sympas, c'était des blocages vegan, c'était des assassinats sans gluten. Mais là, il va montrer les dents. Je regardais les conséquences économiques de la guerre en Iran pour les Iraniens. J'ai vu un truc, leur monnaie, le rial, vous savez combien ça vaut ? Un euro, ça vaut 2 millions de rial. Ça veut dire que si tu remportes là-bas l'épisode caritatif de Qui veut gagner des millions pour aider les hôpitaux, et bravo ! Grâce à votre gain de 60 millions, les hôpitaux gagnent un pansement. Ah, c'est quand même pas ouf. Malgré tout, l'essence coûte moins cher là-bas que chez nous encore. C'est fou. C'est dingue. Et ben, Alain Bauer va nous l'expliquer.
Ah, ben voilà. Arnaud Demanche, on vous retrouve tout à l'heure en podcast sur l'application. Et dans l'an. On vous retrouve tout à l'heure.
Ouais.
Et quand on veut, en podcast sur l'application RMC. Juste après le face-à-face, vous ne manquerez pas non plus Nicolas Canteloup à 8h50 sur RMC. Vous restez bien avec nous dans un instant. La météo et le journal de 7h30. À tout de suite.
Il est 7h30.
RMC, Apolline Matin.
C'est l'heure du journal avec Clara Gabillet. Bonjour Clara.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Il s'en prenait aux camarades d'école de ses enfants. Dans le Rhône, un homme mis en examen pour viol et agression sexuelle sur une trentaine de mineurs. Il était connu de la justice. Le pétrole s'envole ce matin, $125 le baril, alors que Donald Trump envisage de prolonger de plusieurs mois le blocus dans le détroit d'Ormuz. Et puis on prendra des nouvelles de Léon Marchand qui se prépare à renager dans les bassins français cet été.
Le nombre de victimes est vertigineux. Écoutez bien, ce matin, dans le Rhône, un homme est mis en examen pour viol et agression sexuelle sur une trentaine d'enfants et pour enregistrement d'images pédopornographiques.
Annonce du parquet de Villefranche-sur-Saône hier pour des faits commis dans un village du Beaujolais au nord de Lyon. Cet homme de 40 ans était connu de la justice, déjà mis en examen il y a plus d'un an pour les mêmes faits sur 3 mineurs. Amélie Courtet, l'enquête a pris de l'ampleur. Il y a désormais 34 victimes connues.
Oui, des jeunes enfants âgés de 3 à 9 ans au moment des faits entre 2020 et 2024. Le suspect intermittent du spectacle ciblait des garçons scolarisés dans la même école que ses enfants, dans le village de Lucenay, au cœur du Beaujolais. Les viols et agressions sexuelles avaient lieu lors d'anniversaires ou de soirées pyjama organisées au domicile du père de famille, précise Le Monde. L'homme accompagnait par exemple les enfants aux toilettes et les masturbait. Des actes filmés, en tout, plus de 300 vidéos et photos ont été retrouvées. Des clichés où apparaissent parfois des enfants endormis. Certains finissent par parler. Il est arrêté et placé en garde à vue en décembre 2024. À sa sortie, il tente de se suicider et laisse une lettre dans laquelle il reconnaît une partie des faits. Placé en détention provisoire, il finit par avouer avoir agressé sexuellement une trentaine d'enfants.
Explication d'Amélie Courtet pour RMC. Le baril de pétrole a un niveau record ce matin. Le Brent à plus de 125 dollars du jamais vu depuis le début de la guerre en Ukraine, plus 5% depuis ces propos de Donald Trump devant des dirigeants du secteur pétrolier. Le président américain évoque la possibilité de prolonger pendant plusieurs mois le blocus dans le détroit d'Ormuz. Total Energy assure que le plafonnement des prix à la pompe va continuer. C'est comme cela que nous redistribuons nos profits, répond le géant pétrolier à Sébastien Lecornu, qui a plaît hier à cette redistribution d'une manière ou d'une autre, après l'annonce par Total de bénéfices de 5,8 milliards de dollars au premier trimestre. Résultat historique aussi porté par une stratégie d'optimisation des marges sur le raffinage, le processus pour transformer le pétrole en carburant, Antonin Audion.
Oui, les raffineries de Total tournent à plein régime avec un taux d'utilisation de 90%, se félicite le PDG Patrick Pouyanné. Or, sur cette activité de raffinage, Total a multiplié par 5 ses profits en un an. Pour Jacques Percebois, spécialiste de l'économie de l'énergie, c'est le blocage du détroit d'Ormuz et l'arrêt d'une partie des raffineries au Moyen-Orient qui permettent à Total de faire grossir ses marges.
Les prix du pétrole brut ont monté. Donc, la marge de raffinage, c'est souvent un pourcentage du coût d'accès au brut. Et donc, en effet, les marges de raffinage se sont envolées depuis quelques mois. Alors, il se trouve que là, aujourd'hui, comme il y a une forte demande pour les produits raffinés, eh bien, les entreprises en profitent en quelque sorte pour augmenter leurs marges.
Face au tollé provoqué par ces surprofits, Total déclare en redistribuer une partie en plafonnant les prix des carburants dans ses stations-service. L'entreprise annonce également qu'elle va poursuivre le blocage des prix au mois de mai.
Et vous avez entendu peut-être Jérémy au 32-16 tout à l'heure qui disait c'est normal, une entreprise doit faire des bénéfices, c'est le système qui est comme cela, faut plutôt que l'État fasse un effort. Est-ce que vous êtes favorable à ce qu'on taxe les super profits de Total? C'est la proposition du socialiste Philippe Brun, mon invité, juste après ce journal.
Pas de croissance pour la France au premier trimestre. Le produit intérieur brut est resté stable, annonce ce matin l'INSEE qui prévoyait une augmentation de 0,2%. Sébastien Lecornu au siège de l'ANTS cet après-midi, le portail qui gère les demandes de pièces d'identité victimes d'une fuite de données il y a deux semaines. Le Premier ministre doit faire des annonces en matière de cybersécurité car les attaques se sont multipliées contre des sites français ces dernières semaines. Maxime Clieruza, souvent par appât du gain.
Oui, avec une revente de données allant de quelques centaines à plusieurs dizaines de milliers d'euros. Si les cybercriminels visent particulièrement la France, c'est que son marché y est propice, selon Fabrice Epelboin, enseignant et entrepreneur en sécurité informatique.
On est un pays extrêmement moderne, qui s'est informatisé très tôt et qui a une administration qui est non seulement très centralisée, mais pléthorique par rapport à la plupart des autres pays du monde. Ce qui fait qu'on a énormément d'informatique, ce qui fait d'autant plus de trous de sécurité qui, pour certains, datent de plusieurs décennies.
Les violations de données ont doublé en 4 ans, selon la CNIL, passant de 2800 en 2020 à plus de 5600 en 2024. Opérateurs téléphoniques, assureurs ou encore une soixantaine d'associations sportives, les cybercriminels usent de tous les moyens pour siphonner les données, selon le hacker éthique Clément Domingo.
On a beaucoup parlé de l'Union nationale du sport scolaire et ce qui était intéressant, c'est qu'ils avaient récupéré les identifiants d'une personne dans l'académie de Bordeaux. Donc ce monsieur qui était quand même nostalgique, son mot de passe était France 98 et c'est comme ça qu'il se connecte et récupère plus de 7 millions de données.
Pour contrer ces piratages, deux solutions selon les experts, plus de vigilance pour les particuliers et plus d'investissement dans la cybersécurité pour les entreprises.
Les sports avec Léon Marchand de retour à la compétition aujourd'hui.
À Miami aux États-Unis, compétition en guise de préparation pour les championnats de France en juin et d'Europe en août. Julien Richard, vous vous êtes entretenu avec lui, notamment sur ses derniers mois d'entraînement.
Oui, les derniers mois ont été très studieux.
On a vu 8 km par session, 72 km par semaine avec 9 entraînements, plus 3 heures de muscu. Donc ouais, un état de fatigue constant à essayer de survivre en fait finalement. C'était vraiment compliqué parce que j'ai plus 18 ans aussi.
Il en aura 24 dans quelques jours. Son diplôme d'ingénierie logicielle en poche, Léon Marchand a mis ses études sur pause.
J'ai une vie assez ennuyeuse, j'ai envie de dire.
Ce qui lui laisse le temps d'apprendre le piano et également d'expérimenter pour mieux gérer ce travail intense.
Moi j'aime bien tester, que ce soit en nutrition, que ce soit en hydratation, en sommeil, que ce soit avec la respiration, avec le yoga, des étirements. J'ai un retour qui est instantané. Le lendemain, je vais voir si ça m'a servi ou pas.
Attention à son corps et à sa tête.
Je suis obligé de faire attention à mon équilibre humain, d'essayer de garder le sourire, même dans les moments qui sont un peu durs, parce que sinon, je sais que le sport de haut niveau, ça pardonne pas trop.
Léon Marchand pleinement lancé vers les JO de Los Angeles en 2028.
Moi, je me suis toujours dit que Paris, c'était qu'une étape au final, même avant. Et après, j'ai beaucoup de mal, moi, quand même, à visualiser les Jeux de Los Angeles. J'ai vraiment besoin d'avoir des objectifs qui arrivent vite, comme les championnats d'Europe.
Les championnats d'Europe du 10 au 18 août à Saint-Denis, retrouvailles avec le public français pour la première fois depuis ses 4 titres olympiques de 2024.
En football, Achraf Hakimi est forfait pour la demi-finale retour contre le Bayern mercredi. Le latéral du PSG souffre d'une lésion à la cuisse droite, annonce le club. Dans l'autre demi-finale, le suspense reste entier entre l'Atlético de Madrid et Arsenal. Match nul, un partout hier soir entre les deux équipes. Et puis en Ligue Conférence, Strasbourg se déplace à Madrid contre le Rayo Vallecano. C'est à 21h.
Oui, encore un club français en demi-finale de Coupe d'Europe ce soir sur RMC. Le quintet, c'est à Paris-Longchamp, départ à 20h15.
La Dream Team des courses RMC vous conseille de jouer son favori, le numéro 9, Kraskov. L'Outsider, c'est le numéro 6, Jusers, Fall, le 9 et le 6.
Merci beaucoup Clara Gabillet, c'était le journal de 7h30, un nouveau journal à 8h tout à l'heure avec Quentin Vinet. Il est 7h37 et j'accueille à présent le vétérinaire Christian Diaz en direct avec nous, spécialiste en médecine du comportement, expert en justice. Bonjour Christian Diaz.
Oui, bonjour.
On revient avec vous sur cette affaire dont on parlait dans le journal de 7h. Cet enfant de 10 ans hospitalisé dans l'Oise, attaqué par deux chiens, les chiens des voisins. Inquiétude dans la commune. Simplement, deux questions très rapides. Les canets corso, il s'agissait de deux canets corso. Il y en avait deux. C'est un gros chien, c'est un chien puissant.
Oui, le canet corso est un molosse. Hein, donc c'est un chien du deuxième groupe, mais ce n'est pas un chien de catégorie. Autrement dit, le canet corso n'est pas considéré au sens de la loi de 1999 comme un chien dit dangereux en tant que catégorie.
Oui, mais pas comme
les pitbulls, les canets corso ou les américains Staffordshire Terrier, qui eux par contre ne sont pas des molosses. Mais le canet corso est un gros chien effectivement qui adulte pèse plus de 50 kilos pour les mâles.
Ouais. Le maire dit que les chiens étaient bien dressés, pas dangereux. C'est un peu dur à entendre ce matin alors qu'un gamin a été blessé aux membres et au crâne.
Oui, c'est sûr. Alors, bien dressé dans quelles circonstances, c'est-à-dire qu'ils devaient être simplement éduqués par leur maître, en présence de leur maître, et pas dangereux. Tout chien peut être dangereux. Hein. Le chien, quoi qu'on en dise, est par définition un prédateur social.
Alors, on nous dit que les chiens connaissaient l'enfant et vice-versa, ça change quoi ?
Alors, connaissez l'enfant, apparemment, d'après ce que j'ai vu et entendu, c'était l'enfant des voisins. Donc, oui. ce n'était pas l'enfant de la famille, ni le chien de la famille. Connaître l'enfant en présence d'adultes, c'est parfois différent. Être en présence d'un enfant, en présence d'adultes, peut être différent pour le chien que lorsque l'enfant est seul. Vous avez des chiens notamment, alors c'est rare mais ça existe, hein, on a des chiens qui sont prédateurs d'enfants en bas âge par défaut de socialisation précoce aux enfants. Ces chiens-là, parfois en présence de l'adulte, seront tout à fait, je dirais, acceptables comme chiens et ne manifesteront pas grand-chose par rapport à l'enfant. Ce qui sera complètement différent lorsqu'ils seront seuls avec l'enfant.
Merci donc, beaucoup Christian Diaz. Merci, c'est très clair. Et pour le coup, je pense que nos auditeurs qui ne connaissent pas forcément ni l'espèce, ni la situation, ils voient un peu plus clair. Christian Diaz, vétérinaire et spécialiste du comportement, expert en justice, en direct ce matin. Il est 7h39 sur RMC et RMC Story.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Total annonce 5 milliards d'euros de bénéfices au premier trimestre 2026, en hausse de 50%. Et la guerre n'a commencé qu'à la toute fin du mois de février, alors que le baril explose encore cette nuit. Faut croire que le meilleur est à venir pour Total. Bonjour Philippe Brun.
Bonjour.
Député socialiste de l'Eure, vous avez proposé hier de taxer les super profits des pétroliers pour, je cite, rendre aux Français l'argent qui leur a été pris. Comment ? Vous nous répondez dans une minute sur RMC.
RMC, jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Mathieu Béliard.
Bon réveil à toutes et à tous à l'écoute d'RMC. Il est 7h43. Le baril est en train d'exploser cette nuit autour des 125 dollars. Mais vous n'achetez pas des barils, vous achetez des litres d'essence. 2 euros pour le sans-plomb. Le gasoil à 2,20 €, c'était attendu. Et ça a eu l'effet escompté, la polémique. Total annonce 5 milliards de bénéfices au premier trimestre. Bonjour Philippe Brun.
Bonjour.
Vous êtes député socialiste de l'Eure et à l'annonce des résultats de Total, vous avez immédiatement déposé une proposition de loi pour taxer les bénéfices exceptionnels des groupes pétroliers. Je simplifie le mécanisme sous votre contrôle. Les entreprises concernées afficheraient un chiffre d'affaires supérieur à 750 millions d'euros. On trouverait plusieurs taux, mais on taxerait les bénéfices exceptionnels en calculant sur les 3 années d'avant. Vous le dites clairement, les pétroliers sont en train de s'engraisser sur notre dos.
Oui, c'est évident, hein. Je veux dire, vous imaginez, c'est le Père Noël pour eux, le détroit d'Ormuz. On passe d'une situation à laquelle l'essence a un prix beaucoup plus bien inférieur. Et aujourd'hui, vous avez une augmentation de 40% du prix du gasoil sur un an, de 25% du prix du sans-plomb sur un an. Et ces profits, rien n'est justifié. C'est pas Total qui a inventé une essence où on peut rouler 20 km de plus avec un plein. C'est pas Total qui a développé une offre commerciale formidable qui fait qu'on va tous chez Total et pas chez les autres. Et c'est pour ça qu'ils font davantage de profits. C'est simplement le profit réalisé sur le dos des Français. C'est les automobilistes qui, par leur ticket de carburant, en réalité, ont financé ces surprofits. Et la première annonce de Total hier, c'était pas de dire on va faire un geste pour les automobilistes, de dire on va distribuer un dividende exceptionnel aux actionnaires. Donc nous sommes dans notre rôle en disant aujourd'hui que cet argent doit être rendu aux Français. La taxe qu'on propose, c'est pas une taxe pour aller dans le puits sans fond du déficit de l'État, c'est une taxe pour ensuite prendre des mesures pour redonner cet argent.
Dites, on pourrait baisser la TVA.
Soit effectivement baisser la TVA, comme l'a fait le gouvernement socialiste espagnol, comme l'avait fait Lionel Jospin quand il était Premier ministre en 2001, soit effectivement avec des chèques qu'on peut donner immédiats aux Français qui en ont le plus besoin.
Alors Total, eux, ce qu'ils disent, c'est qu'ils redistribuent déjà. Simple déclaration à l'AFP hier, ils disent avoir mis en place sans attendre qu'on nous le demande une politique de plafonnement des carburants dont les Français bénéficient. Et c'est vrai, le carburant aujourd'hui, il est moins cher chez Total, il est plafonné.
Alors d'abord, Total, il n'y a pas des stations Total partout. Les stations Total où ? Sur les autoroutes. Moi, je ne connais pas grand monde qui fait son plein au quotidien pour aller travailler sur une autoroute. Il y en a dans les très grandes villes. Moi, par exemple, dans l'Eure, dans ma circonscription, j'ai 83 communes, 130 000 habitants, peut-être 90 000 véhicules en circulation, et il y a seulement 2 stations Total. Donc, les Total est un acteur minoritaire aujourd'hui de la distribution du carburant. Où vont les Français moyens qui nous écoutent ce matin sur RMC faire leur plein? Ben, ils vont chez Leclerc, ils vont chez Carrefour, ils vont chez Intermarché. Bref, sur les parkings du supermarché où l'essence est souvent à prix coûtant. Donc, le geste commercial de Total, c'est pas ça la bonne réponse. On s'en moque que Total fasse des offres commerciales, que Total vous offre un Kinder ou un Mars ou des chewing-gums à la caisse. Ce qu'on veut aujourd'hui, c'est que les prix baissent.
Et pour ça,
que
pardonnez-moi, excusez-moi, le plafonnement des prix de Total, depuis le début, il l'avait pratiqué déjà au moment de la guerre en Ukraine. On est dans une offre commerciale, c'est comme quand on vous offre une serviette de plage avant les vacances.
Évidemment, c'est totalement anecdotique. Total n'est pas un acteur majeur de la distribution aujourd'hui des stations-service en France. Il y a très peu de stations Total, notamment en ruralité. En réalité, on va acheter notre essence au supermarché ou à quelque chose qui ressemble à un supermarché. C'est là que les gens vont faire leur plein. Ils font pas leur plein chez Total. Il y a très très peu de stations Total en vérité. Ça concerne personne. Ça concerne les gens qui sont sur les autoroutes et dans les grandes villes où il y a effectivement des stations Total.
On va accueillir Jérémy qui nous appelle du Bourdoisan en Isère. Bonjour Jérémy.
Ouais, bonjour. J'aimerais bien aussi que l'État me fasse un petit geste commercial sur mes impôts de temps en temps. Je ne sais pas si c'est possible. Ouais, non mais alors.
Vous n'avez pas l'air enthousiaste sur la proposition
de loi. Non, c'est pas du tout enthousiaste parce que là j'ai l'impression qu'on vit dans un pays communiste. Les sociétés privées ont quand même le droit de travailler, de faire du bénéfice. C'est ça qui me dérange un peu. Moi, je rejoins un peu l'avis de Jérémy, précédent auditeur qui était intervenu tout à l'heure. En fait, on a trois facteurs qui a joué en faveur de Total. C'est qu'avec le blocage des prix, Total a avalé tous les clients des distributeurs d'hypermarchés.
Ouais.
Donc forcément, ça, le chiffre d'affaires, il a augmenté. Nous avons le facteur prix le prix du baril qui a augmenté aussi. Donc forcément.
Et pour vous, tout est normal. Là, quand Jérémy, pardonnez-moi, en oubliant la proposition de loi de Philippe Brun un instant. Hier matin, oui. Vous entendez 5 milliards de bénéfices record pour Total au premier trimestre. Mm-hmm. Ça vous interpelle pas, Jérémy? Vous êtes chauffeur-livreur, vous faites le plein.
Chaque année, ils font du bénéfice. Vous voulez faire quoi?
Vous voulez faire quoi? Ben Jérémy, on fait quoi? Parce que moi, je voudrais juste rappeler aussi qu'on a déjà... Non, mais je vais poser la question à Philippe Brun. On a déjà mis des mécanismes en place pour taxer les surprofits. Le gouvernement Borne, en 2022, 33% sur les bénéfices jugés excessifs. On avait récolté 69 millions.
Oui, alors, bien loin. Moi, j'avais voté contre cette taxe qui était une blague. C'était une taxe sur le raffinage. Donc, il y a peu de raffineries en France, de moins en moins, malheureusement. Et les raffineries en France, elles sont plutôt déficitaires. Elles ne font pas de surprofits. C'était évident que cette taxe allait rien rapporter. Elle a rapporté 70 millions d'euros. C'est moins que le budget de la chaîne RMC. Donc, c'est évidemment que c'était anecdotique et inutile. Ce qu'il faut aujourd'hui, et moi je suis d'accord avec ce que dit Jérémy, c'est faire surtout baisser les prix à la pompe. Pour le financer, il faut qu'on puisse avoir des moyens pour le faire. Et pour, si on veut par exemple baisser la TVA ou la TICPE sur les prix du carburant, il faut qu'il y ait une juste contribution. Je rappelle qu'on n'est pas les seuls à le proposer. Le gouvernement espagnol, le gouvernement portugais, le gouvernement autrichien demandent aujourd'hui à l'Union européenne d'adopter cette taxe que je propose aujourd'hui, que nous proposons au niveau national, de l'adopter au niveau européen pour qu'il y ait une juste contribution. Exemple, lors de la crise Covid et ukrainienne, vous vous souvenez, il y a eu une explosion du prix du conteneur. Et un grand groupe de porte-containers, qui est propriétaire de BFM TV, CMA-CGM, avait réalisé des surprofits importants. Mmh. Le conteneur était passé de 4 000 euros à 20 000 euros. Et bien, qu'est-ce qui s'est passé? On a adopté une taxe, et CMA-CGM a payé une taxe supplémentaire sur ses surprofits. Parce
vous
que
dites période exceptionnelle, mesure exceptionnelle.
C'était exceptionnel. L'augmentation du prix du conteneur, ça avait fait augmenter les prix de tout le monde au supermarché. Donc CMA-CGM avait payé. Là, l'augmentation du prix du baril, ça a fait augmenter les prix de tout le monde à la station-service. Il est normal que Total paye aussi.
D'un mot, et il nous reste très très peu de temps, je voudrais préciser, parce que vous l'avez évoqué, il y a 3200 stations Total, c'est 25% du carburant distribué en France, un quart. Pour le dire simplement. Mais en fait, on parle des distributeurs, là, quand on parle de ça. On parle de ce qu'on voit, nous, quand on fait le plein, il y a le totem, il y a le prix, etc. Mais c'est pas les distributeurs. On n'arrête pas de parler des marges des distributeurs. Là, on est sur les raffineries, on est sur les pétroliers. Il faut bien comprendre la nuance. Absolument. On se trompe de cible, en fait, depuis le début.
Absolument. Le problème, c'est pas les distributeurs, c'est pas non plus les raffineries françaises, puisqu'elles sont pour la plupart déficitaires. Bon, le déficit est d'ailleurs organisé assez intelligemment, de manière comptable, par les grands groupes. Le sujet, c'est les producteurs. Si Total voulait vraiment faire un geste commercial, ce serait pas dans ses stations. Ce serait de dire, le pétrole que je vends à Leclerc, à Intermarché, à Carrefour et à tous les autres, là, je mets en place
Jérémy,
un blocage.
C'est à Leclerc
prix.
Qui, Saint-Michel-Édouard Leclerc qui doit faire une ristourne.
Exactement. Et là, on aurait des effets immédiats à la pompe.
Merci beaucoup. Philippe Brun, on verra si le gouvernement se saisit de votre proposition de loi. Emmanuel Macron a appelé hier à réfléchir à de nouvelles réponses. On verra ce qu'il en est. Merci Philippe Brun, cette proposition de loi pour taxer les super-profits de Total, vous l'avez présentée ce matin sur RMC. Merci Jérémy qui était avec nous au 32-16. On continue d'en parler avec vous ce matin. N'hésitez pas, vous prenez la parole. Il est 7h51. Et dans un instant, la voix de gauche d'RMC, c'est Cécile Duflot. Bonjour Cécile.
Bonjour Mathieu.
Avec un gros coup de gueule contre l'Europe ce matin.
Oui, un gros coup de gueule contre le vote d'hier qui va permettre de laisser des produits qu'on sait toxiques dans les cosmétiques. C'est un scandale.
A tout de suite sur RMC, RMC Story.
RMC, Apolline Matin.
Il est 7h52 sur RMC, le bonus. Élise, Michael Jackson est toujours bel et bien le roi de la pop et il est désormais aussi le roi du ciné.
Eh oui. En témoigne le succès de son biopic, sorti il y a maintenant une semaine et un jour et qui cartonne autant en France qu'aux États-Unis avec déjà un record, celui du meilleur démarrage de l'histoire pour un film biographique. Chez nous, il a déjà attiré 1 400 000 spectateurs en tête du box-office. Et ce, malgré les critiques catastrophiques qu'il a reçues ici et outre-Atlantique. Alors forcément, vous vous en doutez, tout ça a eu un effet sur les écoutes. Les plateformes de streaming enregistrent une hausse spectaculaire du nombre d'auditeurs de Michael, décédé il y a 17 ans. Parmi ses titres les plus écoutés et réécoutés, Billie Jean, sorti en 82, est désormais à la 15e place du top 50 France de Spotify, entre Bad Bunny et Théodora, mais on retrouve aussi Beat It. 27e position, Michael lui revient dans le top 10 des artistes les plus écoutés. Et ça tombe bien parce qu'il y a fort à parier que c'était tout l'objectif de cette super production.
RMC, Apolline Matin, voix de gauche, voix de droite.
Bonjour Cécile Duflot.
Bonjour Mathieu.
Vous êtes la voix de gauche sur RMC et ce matin, Cécile, un vote hier du Parlement européen sur les cosmétiques qui vous scandalise.
Oui, qui me scandalise parce que c'est un vote qui, techniquement, permet aux industriels de continuer d'utiliser pendant 30 mois supplémentaires des produits qu'on sait toxiques pour la santé humaine. C'est aussi simple que ça et aussi dingue que ça.
Comment c'est possible?
Alors c'est possible parce qu'il y a une grosse pression des industriels et c'est dans une loi qu'on appelle, enfin un texte qu'on appelle de simplification. Et je pense qu'il faut dire maintenant que simplification, ça devient le mot pour dire recul environnementaux. Donc c'est tous azimuts, mais là, en l'occurrence, ça concerne la santé humaine et même la santé des enfants, avec des conséquences très précises.
De quoi est-ce qu'il s'agit exactement, Cécile ?
Il s'agit de l'interdiction des produits qui sont reconnus CMR. Alors ça paraît technique comme ça, mais CMR, ça veut dire cancérogène, mutagène, reprotoxique. En français, cancérogène, on a bien compris, qui provoque le cancer. C'est documenté par des études scientifiques, des produits reconnus comme tels par l'Agence de santé européenne. Des produits mutagènes, c'est-à-dire qui font changer les gènes et que ça produit et ça conduit au cancer. Et enfin, reprotoxiques, là il s'agit des produits qui sont dangereux pour la reproduction humaine, qui font baisser la fertilité ou pire, qui créent des anomalies et des dégâts sur les fœtus à l'intérieur du ventre de leur maman. Voilà de quoi on parle et des conséquences, l'augmentation des cancers qu'on connaît et encore davantage chez les plus jeunes.
Bon, et comment est-ce qu'on fait pour y échapper, Cécile ?
Comment est-ce qu'on fait pour y échapper ? Bah, d'abord, on applique la loi. Enfin, c'est pas normal qu'on puisse acheter dans le commerce des produits avec dedans du poison, parce que c'est de ça dont il s'agit. Vous achetez des crèmes qui ont du poison pour vous et pour vos enfants. Donc ça, c'est quand même pas normal. Donc on se renseigne, mais c'est quand même très compliqué parce que tout ça a des noms scientifiques extrêmement complexes.
Déjà sur l'alimentaire, c'est compliqué, mais alors sur du cosmétique.
Et donc il faut absolument que les gens soient protégés. On n'a pas à pouvoir acheter du poison. La santé doit primer sur les industriels et conseil de base, notamment avec les enfants, le moins de produits possible. Ces trucs de routine à 15 sérums, etc. C'est pas possible. Vous faites du mal à la santé de vos enfants. Donc il faut le dire de manière très simple. Résister à la publicité, moins de produits, c'est moins s'exposer à des substances qui fabriquent du cancer. C'est ça dont il s'agit et c'est aussi scandaleux que ça.
Vous n'aimez pas la simplification ?
La fausse simplification qui consiste en fait, c'est un mot dont on se dit bah, c'est super, voilà, c'est super de simplifier. En fait, on est en train de tuer des systèmes qui nous protègent et qui protègent notre santé et notre avenir.
Merci beaucoup Cécile Duflo, la voix de gauche sur RMC ce matin, ça vous fait réagir, n'hésitez pas. Demain, le débat avec un duo inédit, Jérôme Lavrieux face à Raquel Garrido, on les accueillera demain matin. Dans un instant, le journal de 8h, avec Donald Trump qui envisage un blocus de plusieurs mois du détroit d'Hormuz, le baril s'envole cette nuit. Et juste après, c'est pas le prix à la pompe. Enfin, c'est une autre pompe. On va parler du kérosène avec Pierre Rondeau.
Bonjour Mathieu. Bonjour. Alors oui, pour l'instant, on pourra peut-être partir en vacances, mais c'est pas sûr plus tard.
A tout de suite sur RMC, RMC Story.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Il est 7h59 sur RMC, RMC Story. Charlène Villemer, le temps aujourd'hui.
Une France encore coupée en deux entre l'ouest et l'est avec des orages sur toute la moitié ouest, particulièrement fort dans le sud-ouest cet après-midi. Si vous habitez en Bretagne après la pluie cette nuit, c'est très nuageux ce matin. Les averses orageuses, elles vont se décaler vers l'Occitanie et puis on aura aussi des orages sur les Hautes-Alpes et puis la Savoie. Le soleil, lui, il sera présent cet après-midi dans le nord-est et puis on a ce vent aussi qui traverse le pays et qui accentue cette sensation de fraîcheur. Côté mercure, c'est toujours doux. On a en moyenne entre 10 et 15 degrés ce matin, 7 degrés un peu plus frais dans le nord-est. Au niveau des températures cet après-midi, il fera 20 à Paris, on aura 25 à Lyon, 20 du côté de Biarritz également, 22 pour Perpignan, 24 à Marseille et 23 à Dijon. Demain, attention, on aura encore des orages sur la moitié ouest et puis un coup de tonnerre est à prévoir également dans la région parisienne en fin de journée.
La météo sur RMC avec Magnolia.fr. Changez votre assurance de prêt et économisez sur Magnolia.fr, comparateur en assurance de prêt immobilier.
Soyez toutes et tous les bienvenus sur RMC, il est 8h.
RMC, Apolline Matin.
Et c'est l'heure du journal de Quentin Vinet. Bonjour Quentin.
Bonjour à tous. Tous les indicateurs, vous allez voir, sont dans le rouge. Ce matin, les prix du pétrole s'envolent à des niveaux historiques. La photo au blocage du détroit d'Hormuz qui pourrait bien durer encore plusieurs mois. Pendant ce temps, la croissance nulle en France. 0% au premier trimestre. On a les chiffres ce matin. Et vous allez voir que les Français utilisent de moins en moins la voiture. Dans ce contexte géopolitique, la France se prépare à la guerre. Gigantesque simulation de combat avec 12 500 soldats qui s'achèvent aujourd'hui dans l'est du pays. Et il n'y en a pas que pour le PSG. En football, ce soir, c'est Strasbourg qui jouera à Madrid sa demi-finale européenne. C'est en Conference League.
On assiste depuis hier soir à une envolée des prix du pétrole.
Oui, alors c'est simple, on s'est couché hier soir. Le baril était à 118$. On se réveille ce matin, il est monté à 126$. C'est le cours du Brent qu'on suit, nous, en Europe. Romain Houck pour RMC en direct ce matin. On est à des niveaux, faut le dire, historiquement hauts.
Oui, c'est du jamais vu depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie il y a 4 ans. Et il faut s'attendre à en voir les conséquences chez nous, à la pompe, dans les jours à venir. Les experts s'accordent à dire qu'en moyenne, plus 1$ sur le prix du baril. c'est plus 1 centime sur le prix de l'essence.
Comment ça s'explique?
Eh bien, le plus probable, c'est que les marchés soient en train de réagir négativement à l'option que semblent choisir les États-Unis dans la guerre en Iran. Hier, la Maison-Blanche tenait une réunion entre l'administration Trump et les dirigeants du secteur pétrolier américain, réunion lors de laquelle le président américain a directement abordé l'hypothèse d'une prolongation de plusieurs mois du blocus dans le détroit d'Ormuz. C'est un peu plus efficace que les bombardements, assure lui-même le président américain, qui, ce matin, sur son réseau social, accentue encore la pression. Donald Trump recommande aux Iraniens de se montrer, je cite, « intelligents » et vite en concluant un accord sur le nucléaire. Un conflit qui s'enlise et des cours du pétrole qui s'envolent. Pour sortir de l'impasse, les Américains vont-ils de nouveau frapper l'Iran? Donald Trump doit être briefé aujourd'hui sur de possibles nouvelles opérations militaires.
Et alors, plusieurs conséquences à tout ça. La croissance est à l'arrêt en France. Elle est à 0% au premier trimestre de l'année, alors que l'INSEE, qui dévoile le chiffre là ce matin, avait fait une prévision à 0,2%. C'est donc moins bien que prévu, avec en plus une consommation des ménages qui est dans le rouge, à moins 0,6% pour le premier trimestre. Et on fait aussi le constat, eh bien, que les Français prennent moins la voiture avec la flambée des prix à la pompe. Les ventes de carburant sont en baisse ces derniers jours. Selon les chiffres du comité professionnel du pétrole que RMC a pu consulter, on est autour de moins 15% pour le sans-plomb, moins 19% pour le gazole quand on compare sur un an. Et alors, c'est très simple à comprendre, pas une personne interrogée par notre correspondant Pierre Borges à Bordeaux n'a pas changé ses habitudes.
Cela faisait longtemps que ces automobilistes n'étaient pas venus dans une station essence.
C'est trop cher. C'est la première fois de ma vie que ça m'arrive de faire un plein d'essence à plus de 100 euros.
L'objectif, venir ici le moins possible, donc limiter sa consommation.
Je me limite totalement. Comme là, je devais être en vacances, eh bien, j'ai pas été. Je suis resté près de la maison, je fais des petits allers-retours, voilà.
Je rentre un petit peu moins voir ma famille. Je rentre une fois par mois, au lieu de rentrer deux fois par mois. J'économise, ouais, 300 km. C'est triste d'en arriver là.
À 2,20€ le litre de gasoil en moyenne, Charlotte a trouvé une alternative pour aller au travail.
Je prends davantage les transports en commun. J'en ai pour 1h15 en transport, alors qu'en voiture, j'en ai pour 40 minutes. Il n'y a pas le choix.
Pour Maëlle, c'est le covoiturage pour aller au sport avec ses amis.
On essaie d'être dans la même voiture. Ouais. Avant, chacun prenait sa voiture ou se débrouillait. Maintenant, on essaie d'aller chercher, même si ça rajoute un petit peu de trajet.
D'autres ne peuvent pas se passer de leur voiture, mais la plupart expliquent rouler moins vite, voire changent de trajet, comme Anne.
Ma mère qui habite à Bida, je prends plus l'autoroute terminée, je passe par les petites routes. Je mets beaucoup de temps, mais beaucoup moins d'argent.
Sur certaines autoroutes, le trafic a baissé d'environ 1% au premier trimestre 2026.
Et donc il y a deux questions hein. Ce matin, au-delà de ce baril qui bat des records, moi j'achète pas des barils, moi j'ai le plein en litres plutôt. Est-ce que vous avez réduit votre consommation? Est-ce que vous avez réduit vos habitudes, changé vos habitudes, moins loin, moins vite comme on le dit? Et puis il y a cet autre débat, est-ce qu'il faut taxer les super profits des pétroliers? Vous êtes pour, vous êtes contre, vous débattez sur RMC au 32-16.
Et alors c'est dans ce contexte de tensions internationales qu'Emmanuel Macron va enfiler, comme on dit, son costume de chef de guerre aujourd'hui, en supervisant la toute dernière journée de l'opération Orion, qui a été lancé en début d'année. C'est en fait un gigantesque entraînement militaire dans les conditions du réel. Il est inédit par son ampleur depuis la guerre froide. C'est littéralement la France qui se prépare à la guerre, là, en ce moment, avec des simulations de combat dans l'Aube et dans la Marne. Il y a 12 500 soldats qui simulent la guerre, en fait, avec 1800 véhicules même armés, 800 drones, 30 hélicoptères. Emmanuel Macron sera d'ailleurs à bord d'un de ces appareils aujourd'hui, hein, Cyprien Pézeril.
Emmanuel Macron à bord d'un hélicoptère Caïman pour assister à un raid aérien, pour survoler aussi des tranchées, 800 drones dernière génération en action autour de lui, avant que le président ne descende dans le poste de commandement installé au plus près du front. Un scénario de guerre crédible, plus vrai que nature, mais complètement fictif. Une bombe d'entraînement sera aussi larguée, exercice d'ampleur à l'heure de la guerre au Moyen-Orient et en Ukraine. Et un chef de l'État décidé une fois de plus à se montrer dans son costume de chef des armées, pour au passage vanter son bilan. Le budget de la défense en hausse constante, 36 milliards de plus, jusqu'en 2030, dans la dernière loi de programmation militaire réactualisée. Son examen débutera d'ailleurs lundi à l'Assemblée nationale.
Alors ça aussi, c'est une opération inédite à Paris, où la gare de Lyon sera totalement fermée à partir de ce soir et jusqu'à dimanche midi. Plus aucun train pendant 3 jours dans cette gare, qui est une des plus grandes de France, qui dessert tout le sud d'ailleurs du pays. Les trains seront détournés vers d'autres gares. La SNCF profite en fait du week-end du 1er mai pour faire de gros travaux de modernisation, Victor Girard.
Oui, car les deux postes d'aiguillage de la gare qui orientent les trains sur les voies sont vieillissants. Ils datent des années 80. L'objectif des travaux, c'est donc de les remplacer par un système entièrement automatisé piloté depuis une tour de contrôle dans l'Essonne.
C'est un peu comme si vous passiez du Minitel à l'iPhone Pro que vous avez dans votre poche.
Compare Séverine Lepère, la directrice de SNCF Réseau Île-de-France. Le chantier s'annonce intense. Tout doit être bouclé en moins de 3 jours dans l'une des gares les plus fréquentées de Paris.
On va, pendant ce week-end, avoir plus de 500 personnes qui, pendant 60 heures, minute par minute, vont brancher 15 000 objets ferroviaires sur un futur poste d'aiguillage.
Et à la clé des bénéfices concrets pour les voyageurs, promet Amandine Granier, elle est directrice adjointe de l'entité responsable des travaux.
Une amélioration de la réactivité, une amélioration de la régularité, une meilleure gestion et une fluidité du trafic.
Cette modernisation ne profitera pas qu'au TGV. À l'horizon 2031, elle doit aussi permettre de faire circuler davantage de trains sur les lignes RER B et D du réseau francilien entre Châtelet et Gare du Nord.
Alors les joueurs de Strasbourg sont bien arrivés à Madrid où ils vont disputer la toute première demi-finale européenne de leur histoire. Ce soir sera 21h en Conference League contre un club madrilène. Alors c'est pas le plus connu, c'est pas le Real, c'est pas l'Atlético, c'est le Rayo Vallecano. Pas la même ambiance hein, dans un stade vraiment au pied des tours, hein, Sébastien Ruffet.
Pas de stade flambant neuf pour cette première demi-finale européenne du Racing. Des câbles qui pendent, des sièges délavés, mais une ambiance qui rappelle l'Argentine ou le Paraguay de Rolio Enciso.
L'ambiance, ça va être un peu sud-américain. Là-bas, on regarde beaucoup la Liga et Vallecano est l'équipe qui ressemble le plus à notre football.
Entre le populaire Rayo et le nouveau riche Racing, tout le monde s'attend à des duels à fort impact, notamment à cause des dimensions du terrain, l'un des plus petits d'Europe, comme l'a noté le coach Gary O'Neill.
Vallecano a de super résultats à domicile. Je pense que c'est le plus petit terrain d'Europe. Il est unique, il est différent. On a quelque chose d'un peu similaire en Première Ligue avec Luton et ils étaient vraiment bons à domicile avec leur tout petit terrain. Mais quand ils étaient à l'extérieur, sur de plus grands terrains, ce n'était pas facile pour eux.
Si la métaphore guerrière est parfois de trop dans le monde du sport, les Strasbourgeois savent que pour aller en finale de cette Conference League à Leipzig et écrire une nouvelle page du football français, ce sont bien deux batailles qu'il va falloir remporter.
Et alors Madrid qui est vraiment le cœur du réacteur en ce moment puisque c'est là-bas que l'Atlético et Arsenal ont fait match nul un partout hier soir, 2 buts sur pénalty dans la deuxième demi-finale de Ligue des Champions. Le match retour est prévu mardi prochain à la veille du choc de Paris à Munich.
Ah oui, c'est vrai, il y a ça. Merci beaucoup, Quentin Vinet. C'était le journal de 8h sur RMC et RMC Story. Vous savez quoi? On arrête de parler gasoil et sans-plomb un peu. On passe au kérosène.
RMC, Apolline Matin.
Le chiffre d'affaires.
Bonjour Pierre Rondeau.
Bonjour Mathieu.
Est-ce qu'on va pouvoir partir en vacances cet été? Il y a de plus en plus de compagnies aériennes qui annoncent des annulations de vols.
Oui, hein, Mathieu, c'est une véritable inquiétude qui se trame. Depuis le début du conflit en Iran, le coût du kérosène a augmenté de plus de 20% pour les compagnies aériennes. Le pétrole passant par l'étroit d'Ormuz est bloqué. Les aéroports sont obligés, s'ils le peuvent, d'importer du pétrole plus cher ailleurs pour compenser. Et sinon, si ça coûte trop cher, les vols peuvent tout simplement être annulés.
Mais qui est concerné?
Alors pour l'instant, il s'agit des compagnies low cost qui ont une faible marge par billet vendu et qui subissent le plus la hausse du kérosène. Comme l'avait annoncé RMC en début de semaine, Transavia a annulé 2% de ses vols entre mai et juin. La compagnie canadienne Air Transat a abaissé de 6% ses vols sur la même période. Ou encore le groupe allemand Lufthansa avec 20 000 vols supprimés d'ici la fin octobre. Pour Dan Jorgensen, le commissaire européen à l'énergie, il est probable que les vacances de beaucoup de gens seront touchées soit par des annulations de vols, soit par des prix des billets très, très élevés.
Ouais, c'est inquiétant. D'abord les locaux, vous citez même la Lufthansa. Qu'est-ce qu'on peut faire, Pierre? Que peut-il se passer?
Alors, pour faire face à cette situation, le gouvernement a annoncé l'organisation d'une réunion avec les compagnies aériennes la semaine prochaine, le 6 mai prochain. Interrogé, le ministre de l'économie, Roland Lescure, précise qu'il s'agira d'évoquer les volumes, les prix, les politiques d'annulation et la protection des consommateurs. Selon lui, pour l'instant, pas de risque de pénurie. Il y a des stocks stratégiques, 2 millions de barils de kérosène. Côté aéroport, le groupe ADP, gestionnaire des aéroports parisiens Orly et Roissy, semble mieux loti que les autres avec un accès direct aux raffineries du Havre. À l'inverse, des aéroports plus petits, plus éloignés des terminaux pétroliers, risquent eux de connaître plus de difficultés. Alors oui, grande question Mathieu, pourrons-nous prendre l'avion cet été?
On va suivre de très près. En attendant, je peux vous donner un tout petit conseil. l'application RMC, le podcast de la solution conso. Charlène Villemer, ce matin, vous expliquez annulation de vol en cas de problème avec le kérosène. Quels sont nos droits? Vous vous abonnez à ce podcast qui est extrêmement utile. On passe à l'addition.
Et oui, l'addition, mais bien ça augmente.
Ah, mais c'est mignon parce que moi, j'ai une version écrite la veille au soir. C'est déjà périmé pour le baril.
C'est périmé. Alors, pour le samplon 95, ça augmente très légèrement, mais ça va très certainement beaucoup augmenter dans les prochains jours. 1,99€ hier, 2,007€ aujourd'hui. Le gazole, 2,19€ hier, 2,20€ aujourd'hui. Et là, on en a parlé. Le baril de pétrole, pour s'en rendre compte, on était à $105 lundi. On est à 126 ce matin, ce qui est énorme. Le gaz aussi augmente, 43€ hier, 45,94€ aujourd'hui.
On est monté à 126 cette nuit et vous aviez écrit 117 hier soir. Ça va tellement
vite. Ça va tellement vite.
C'est impressionnant. Merci Pierre Rondeau. C'était la chronique Éco à retrouver en podcast, elle aussi. Il est 8h11. I'm
free. Votre rendez-vous sur RMC avec Banque Populaire, engagée aux côtés de ceux qui entreprennent. Banque Populaire, la réussite est en vous.
Allez, dans un instant, Arnaud Demanche. Et puis à 8h30, le face-à-face avec Alain Bauer. À tout de suite.
RMC, Apolline Matin.
C'est tous les jours de manche.
Il est 8h14 sur RMC et RMC Story. Et il est là, c'est Arnaud Demanche.
Oh oui, et il est là, Mathieu, plein d'enthousiasme. Bonjour. Bonjour à vous, les amis. Je suis comme un dingue ce matin. Vous n'êtes pas excité, vous?
Si, toujours.
Par la nouvelle, Bernard Cazeneuve, qui se dit prêt à être candidat à la présidentielle 2027. Écoutez cette foule enthousiaste, il est prêt. Et ouais, pour tout vous dire, Victor, Mathieu et moi-même, on a envie de nous raser juste le dessus du crâne, brutalement.
Chiche. Pour ça va arriver bien assez tôt.
Pour ressembler à l'homme que la France attend. Élise Dangean, elle m'a dit dans les couloirs, bah tu vois, Bernard Cazeneuve, c'est quand il veut, quoi. Charlène, c'est pareil, elle s'est fait un tatouage. Bernard, my love. Bernard Cazeneuve, torse nu, deux mitraillettes en or, sur un char romain tiré par des cygnes. Comme me disait Jérém Star, Bernard Cazeneuve, je le ferai pas dormir dans la baignoire. Quand même, quoi. Bernard Cazeneuve. Hein? Bernard Cazeneuve! Bernard Cazeneuve! Allez, et un! Et deux, et trois, pour cent. Si t'aimes bien Bernard Cazeneuve, tape dans tes mains. Et vous le faites pas. Il y a que Mathieu qui l'a un peu fait.
Vous, voilà.
Peut-être que parce que vous ne savez pas qui est Bernard Cazeneuve. Vous avez moins de 73 ans. Ah, lui, il savait pas qui était Buffy. Oh, hein. Victor, il savait pas qui était Buffy. Ouais,
il est plus vieux que Sarah-Michel Gellar.
C'est l'ancien Premier ministre de François Hollande. Un gars, mais regardez, très fun. Alain Juppé à côté de lui, c'est David Guetta. Et donc, il se dit prêt pour 2027. Eh ben, c'est très gentil, monsieur. Mais on va réfléchir. Parce que, ah oui, la foule enthousiaste que vous avez entendue en début de chronique, en fait, c'était un bruitage. La vérité, c'est qu'on sent pas une grosse attente autour de Bernard Cazeneuve. Alors, son parti s'appelle la Convention. Ouais. Vu l'état de la gauche, ça aurait plutôt dû s'appeler la Convention obsèques. C'est un peu... On dirait un huissier de justice qui essaye de faire le mec cool à la soirée des ados. Yo! Bonsoir les Jones, elle est méga cool votre surboom. Yo, signe de Jules, allez venez à la convention, il y a des panachés gratuits. Et il a été maire de Cherbourg pendant plus de 15 ans, et je vais faire de la France ce que j'ai fait à Cherbourg. Eh ben merci pour cette vision. Ah, ce moment Cazeneuve. Moi j'ai tellement hâte d'un beau moment Cazeneuve.
Alors on en sait un moment Cazeneuve.
Oui. L'instant Cazeneuve.
On en sait un peu plus sur l'état de santé de l'ayatollah Mojtaba Khamenei.
Oui, alors selon le New York Times, il attend une prothèse de la jambe, il a perdu une main, son visage et ses lèvres ont été gravement brûlés et il peut à peine parler. Là, même Philippe Croizon a mal pour lui. Même lui, il va pas faire assez chaud là. Plus de jambes, plus de mains, plus de lèvres. C'est plus un guide suprême en fait, c'est monsieur patate. On va lui mettre des trucs. Hop. Ben, on rigole, hein, mais les médecins iraniens, ils sont bons. Ils vont faire comme dans les films américains, ils vont lui mettre des bras de robot, des jambes avec un lance-missile intégré, des yeux laser. Ça va être le Mollah qui valait 3 milliards. Thermolator. Les Américains, ils vont galérer pour le buter, celui-là. Hein. Va falloir envoyer les Expendables et Bruce Willis.
Salut
l'équipe,
c'est Bruce Willis.
Oh, un Mollah robot. Il n'y a qu'à le faire bugger en lui lisant des trucs féministes. Je vais lui réciter du Simone de Beauvoir. Allez, on ne naît pas femme, on le devient. Et maintenant, du Mona Chollet. Allez, faites venir Alice Coffin et Virginie Despentes. Il picaille, pauvre con. Ça se sent que pour faire des vannes sur la guerre en Iran, je suis obligé d'être un peu acrobate là, parce qu'on racle hein, les ponts de tiroir.
Ça ne se sent pas.
Mais alors, c'est très gentil.
Très belle facture.
Très gentil à vous, mais sachez que je ne suis pas tout seul à galérer. Sur BFM, ils ont fait un sujet sur la pénurie de goudron. On en est là, quoi, la pénurie de goudron. Comment on va faire sans goudron? Eh ben, on pourra racler un peu les poumons de Michel Houellebecq, ça va nous faire quoi? 3 kilomètres d'autoroute en plus, c'est quand même pas terrible, on va pas aller loin.
Le biopic sur Michael Jackson qui cartonne en salle.
Oui, malgré une polémique, hein, le film n'évoque pas les dossiers à problème de Michael. C'est-à-dire que le réalisateur, tu lui demandes un biopic d'Émile Louis, eh ben c'est l'histoire d'un chauffeur de bus sans histoire dans la campagne française. Enfin sinon, le film est assez cool. Les biopics, de toute façon, c'est toujours cool. Faut juste pas les voir en VF.
Non. Je suis mauvais. Oui, je suis mauvais.
Ça rend moins bien. Tiens, Mathieu, les amis, un petit jeu. Je vous fais une VF nulle. Vous me dites de qui ça pourrait être le biopic.
Wow. Attention, ça devient technique, les jeux de...
On va vous caillou.
We will rock you.
C'est Queen. Ah oui, d'accord.
C'est pas vraiment la traduction.
Non, c'est pas
okay,
la vraie.
Ouais, d'accord. Vous caillou.
La reine de la danse sans le rit.
Dancing Queen,
bien vu. Je vais te dire ce que je veux vraiment. Dis-moi ce que tu veux vraiment. Autour du monde, autour du monde. Bien vu. J'aime la bouger, la bouger. J'aime la bouger, la
reel
bouger.
Reel to reel.
Oui, reel to reel. Pas de savoir. On termine en beauté. Bravo Mathieu.
J'étais surpris sur le reel to reel. J'avais le CD de titre à l'époque.
Bien vu.
Merci beaucoup Arnaud Demanche. Arnaud qu'on retrouve tous les jours et en podcast quand on veut absolument. En tournée à Épinal, Gaillac, Nice, Lille, Genève. J'allais dire Geneviève.
Non, pas Geneviève. On est pas en tournée dans Geneviève. Ce sera Genève.
Le Garric, Creutzwald, Toulouse ou Rennes. Un spectacle RMC.
Mais on embrasse les Genevièves.
Toutes les Genevièves. Merci Arnaud Demanche. Dominique est en ligne avec nous en Ardèche ce matin. Bonjour Dominique.
Oui, bonjour à toute l'équipe.
Alors vous avez réagi ce matin à cette vidéo polémique, mon cher Dominique, où on voit un coach de MMA, donc ce sport qui combine plusieurs arts martiaux, qui met des coups dans le torse de gamins d'une dizaine d'années. On les voit bondir plusieurs mètres en arrière. Ça vous a choqué? On avait notre consultant MMA qui expliquait que c'est pas dans les règles de ce qu'on fait pour la formation des enfants.
Bah écoutez, j'ai été entraîneur sportif jusqu'à même maintenant, je suis encore, je fais beaucoup de sport. J'ai joué au foot jusqu'à 51 ans et l'objectif principal d'un éducateur sportif, c'est d'empêcher la violence à tout niveau. Et là, les images que j'ai vues ce matin, ça m'a choqué profondément. Oui. J'ai des petits enfants. Et voir ce mec-là mettre carrément un coup de savate dans le torse des gamins, les faire reculer de plusieurs mètres, mais c'est juste épouvantable. Je comprends même pas que ça puisse exister en France, quoi.
Je le précise, Dominique, quand même, parce qu'on a aussi beaucoup d'auditeurs qui vont réagir. Ça n'est pas ce qui se passe normalement dans un cours de MMA pour des enfants. Ça n'est pas comme ça que ça fonctionne. On n'a pas le droit normalement à ce genre de contact, à ce genre de coup, etc., etc. On avait le consultant MMA d'RMC Sport, Baba Diagne, qui était en ligne avec nous tout à l'heure à 7h10. Mais merci Dominique, votre indignation, je crois qu'elle est partagée par de nombreux auditeurs, de nombreux téléspectateurs qui ont peut-être vu la vidéo. Vous continuez à réagir sur ce sujet, évidemment, si vous le souhaitez, au 32-16. Il est 7h21. Très bon réveil à tous avec RMC et RMC Story. 8h21, ouais. Je serais bien resté une heure de plus. Mais il est 8h21 et dans un instant, c'est le face-à-face sur RMC et BFM TV. Alain Bauer, professeur de criminologie au Conservatoire National des Arts et Métiers.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin. Face-à-face.
Il est 8h29 sur RMC et BFM TV. Bonjour Alain Bauer.
Bonjour.
Et merci d'avoir accepté notre invitation. Professeur émérite de criminologie, fondateur du pôle sécurité, défense et renseignement, auteur de nombreux ouvrages, dont l'un des derniers, Trump, le pouvoir des mots. Je le montre à ceux qui nous regardent. On en a besoin de vous ce matin pour comprendre ce qu'il se passe dans la tête du président américain. Trump, je le disais, qui menace d'un blocus long dans le détroit d'Ormuz. Conséquence ce matin, les prix du baril du pétrole qui sont vol comme jamais. Aux auditeurs, aux téléspectateurs qui nous écoutent ce matin, je sais que vous ne lisez pas dans une boule de cristal, mais votre sentiment, cette crise, cette envolée, va-t-elle, peut-elle durer encore très longtemps ?
Alors d'abord, je crois qu'il faut dire la vérité aux gens et cesser de penser que ne pas leur dire éviterait de les inquiéter. Ils sont lucides, ils voient très bien ce qu'ils payent, comment ça se passe, ils regardent les journaux, ils vous regardent, ils vous écoutent, ils sont sur les réseaux sociaux, ils sont très au courant, très informés, parfois manipulés, mais la base de ce qu'ils apprennent au quotidien les indique à être lucides, donc à considérer que cette crise est là, qu'elle va amener probablement des éléments de pénurie, mais que paradoxalement, ceux qui savent gérer ce genre de choses, Patrick Pouyanné notamment, il y avait Michel-Édouard Leclerc il y a quelques minutes sur BFM Business, je crois,
absolument,
sont parfaitement préparés à anticiper en partie, réduire l'ampleur des chocs, et puis il y a toujours des alternatives.
Donc vous parlez de Patrick Pouyanné à dessein, parce qu'il y a quelques jours, on le rappelle, hein, il a dit que, effectivement, si la situation devait perdurer, 2-3 mois, on entrerait dans une ère de pénurie énergétique.
Oui, c'était honnête et lucide, préventif.
Pensé par le gouvernement, mais néanmoins lucide, mais là aussi, de votre point de vue.
Je pense qu'il serait utile que la communication gouvernementale essaye d'éviter de nous refaire le nuage de Tchernobyl qui s'est arrêté à la frontière, ou le masque du Covid qui ne sert à rien, ou que ce n'était qu'une petite grippette. Voilà, à un moment, il va falloir révolutionner la communication politique pour entrer dans le principe de réalité, c'est-à-dire dire la vérité, et ensuite expliquer comment on la gère. Ça passe beaucoup mieux que de mentir, éluder, enfumer. Voilà.
On va venir sur la communication politique de Donald Trump, précisément, ses déclarations donc sur la situation au Proche et au Moyen-Orient. D'abord, cette information de la nuit, un coup de fil entre le président américain et Vladimir Poutine, le maître du Kremlin. Ça n'était pas arrivé depuis 2 mois, en tout cas à la connaissance du public. Selon le Kremlin, ça a été franc, très cordial. Poutine, qui a mis en garde Trump contre les conséquences dommageables, je cite le Kremlin, qu'aurait une nouvelle action militaire contre l'Iran. Ça va être le nouveau médiateur, Vladimir Poutine?
Alors d'abord, il n'est pas nouveau. Il l'est depuis le début. Je rappelle que ce sont les Russes qui gèrent la seule centrale nucléaire en activité qui était en activité iranienne à Bouchehr. Il y avait plus de 300 ingénieurs russes durant cette période. C'était l'un des hommes de l'accord précédent JCPOA ou accord de Vienne qui prévoyait le transfert éventuel d'une partie de l'uranium iranien à un tiers qui pourrait soit le gérer, soit le diluer, ce qui est très compliqué techniquement. C'est possible, mais c'est complexe. Donc, il a toujours été fait partie de l'équation. Il a toujours été présent dans cette affaire. Et donc, il n'y a rien de véritable. Véritablement nouveau.
Rien de nouveau, mais à ce moment précis.
Bon, est-ce il a fait la même chose.
Ça n'a rien de surprenant.
Il a fait la même chose au mois de mars. Si vous regardez le communiqué du Kremlin du mois de mars, c'est le même que le communiqué du mois d'avril. À quelques mots près, c'est tout s'est bien passé, on s'est bien parlé, on s'est tombé d'accord pour dire que c'était pas bien de continuer la guerre et que ça serait bien de trouver une solution et nous sommes disponibles. Il n'y a pas de nouveauté. Et en décembre, on avait eu la version précédente, mais cette fois sur l'Ukraine. Donc, il n'y a pas de nouveauté. La Russie existe, elle n'a pas disparu par l'opération du Saint-Esprit. Elle est là, elle essaye de se retrouver un espace politique. Donald Trump l'a d'ailleurs invité dans les prochains sommets internationaux.
Absolument.
Donc, Donald Trump a décidé, pour des raisons qu'on comprendra peut-être un jour au-delà de la relation personnelle des hommes forts, les brothers, comme il aime le dire,
les hommes forts.
Mais au-delà de ça, il a toujours essayé de déconnecter la Russie de la Chine en disant la Chine est votre principal ennemi. Staline l'avait déjà dit, je vais essayer de vous décrocher de la Chine parce que moi, mon principal ennemi, c'est la Chine et je fais tout ce que je peux pour contingenter la Chine, ce qui veut dire que si Vladimir pouvait revenir dans le bon camp, on pourrait trouver sans doute un bon accord, pas pour les Ukrainiens sans doute, pas plus que pour le peuple iranien, bon accord du point de vue de Donald Trump, dont les seuls intérêts sont les intérêts américains et par ailleurs les siens.
Mais Alain Bauer, néanmoins, vous dites rien de nouveau sous le soleil, mais un Vladimir Poutine qui appelle finalement à retenir la main de Trump, de frapper à nouveau l'Iran. Oui. C'est la traduction, encore une fois, pour les téléspectateurs qui nous regardent, d'une véritable... un véritable lien, encore une fois, s'il fallait le prouver, entre l'Iran et la Russie aussi.
Bien sûr, la Russie a fourni à l'Iran un certain nombre d'équipements, mais ceux qui fournissent le plus d'équipements sont les Chinois et les Coréens du Nord. La Russie s'est limitée à quelques équipements. Les Chinois ont fourni du perchlorate de sodium qui permet de fabriquer du propergol, ce qui est l'élément le carburant des missiles. La Chine a fourni à l'Iran des éléments anti-aériens, des radars, antimissiles et des équipements antimissiles qui n'ont pas été très performants, mais quand même. Il y a d'autres opérateurs particulièrement présents. La quasi-totalité des missiles iraniens d'ancienne génération sont des missiles coréens du Nord, eux-mêmes issus de missiles chinois. Faut pas se leurrer sur la réalité de la confrontation globale qui existe. Je rappelle d'ailleurs très régulièrement que pendant qu'on regarde tout ça, on ne voit pas que les Américains ont récupéré le canal de Panama au nez et à la barbe des Chinois, qu'ils viennent de passer un accord militaire pour contrôler le détroit de Malacca. C'est 80% des exportations chinoises. Là, c'est pas ce qui rentre, mais c'est ce qui sort. Qu'il y a une reconfiguration mondiale avec une nouvelle géostratégie hémisphérique. Il y a la Chine qui essaye de contrôler son espace, les Américains qui récupèrent le leur.
Donc ça fait partie d'un grand plan, en fait, finalement, ce que vous nous décrivez.
Quand on regarde de manière microscopique ce que fait Donald Trump, ça paraît comme totalement incohérent. Quand on le regarde avec un télescope, tout d'un coup, l'alignement des planètes commence à avoir du sens. Et c'est tout le problème qu'on a avec Donald Trump. C'est que, à force de provocation, de divagation et de digression, on a l'impression qu'on comprend rien à ce qu'il fait et que tout ça n'a aucun sens. Et puis, dès qu'on regarde ce qu'il fait sans le dire, dont ce coup de fil dont il fait communication. Enfin, c'est le Kremlin qui dit
absolument.
Voilà comment ça s'est passé.
Et Donald Trump a embrayé.
Et Donald Trump confirme que tout ça
vient.
Tout
ça.
En disant que non, il a dit à Vladimir Poutine, bon, écoute, pas maintenant, occupe-toi plutôt de l'Ukraine. Et par ailleurs, pendant ce temps-là, il prévoit des frappes limitées. Il a demandé à son état-major.
On va y revenir, en effet.
Des frappes très limitées sur des cibles très limitées pour augmenter la pression. En fait, je disais que Donald Trump, c'est un peu Dr House, comme dans la série télé, vous savez, le médecin qui vous tue 12 fois tout en essayant de vous sauver. Il essaye un peu tout jusqu'à ce qu'il trouve la martingale qui lui permet, parce que c'est un joueur de poker, d'avoir un jeton de plus à la fin de la partie qu'au début. Et là, la martingale du soi-disant blocus, enfin barrage filtrant pour être plus honnête, est un élément qui lui convient parce que pour la première fois, contrairement à ce que tout le monde raconte, les négociations reprennent.
Parce que
elles n'ont jamais cessé.
De votre point de vue, considérez que il souffle le chaud et le froid, c'est-à-dire, on le disait, cette prolongation, sans doute dans le temps très long, du blocus dans le détroit d'Ormuz. Ça, c'est un point, et il a déjà alerté. Et les conséquences, on les connaît. Mais en même temps, vous en parliez, il doit se faire briefer par son état-major sur, en effet, la possibilité de prochaines frappes, sans doute ciblées, en Iran.
Oui.
Comment comprendre, finalement, ce en même temps très trumpien de la séquence? Est-ce que vous pensez, d'ailleurs, que ces frappes pourraient avoir lieu dans les prochaines heures?
Alors, prochaines heures, je ne crois pas. Prochain jour, peut-être. En fait, le sujet, il est l'analyse que font les Israéliens de la situation de l'Iran.
Parce que tout se fait avec les Israéliens.
Oui.
Et en cohérence.
Et notamment leur renseignement.
Avec le renseignement israélien.
Le renseignement israélien dit, en fait, nous avons peut-être été un peu optimistes sur la rapidité d'effondrement. Parce que les Américains veulent le désarmement. Les Israéliens veulent l'effondrement du régime. Mais en fait, c'est une poutre que nous termitons. Extérieurement, la poutre apparaît comme extrêmement solide, mais ça n'est pas vrai. Elle est en train de s'effondrer par les frappes au-dessus, le sommet, et par les frappes en dessous que vous ne voyez pas, mais que nous réalisons de manière assez régulière. Et ce truc va s'effondrer. La question, c'est il s'effondre beaucoup plus lentement qu'on ne le pensait, parce que les gardiens de la Révolution, il y a 20 ans, ont anticipé cette guerre. Préparé. Imaginez, il n'y a pas un État iranien, mais 31 États iraniens. 27 centres de production de missiles, de drones, des dizaines ou des centaines de centres de stockage de vedettes moustiques et autres équipements.
Parfaitement efficace.
Parfaitement efficace.
Ça a pu surprendre aussi les États-majors américains.
Ils le savaient. Mais ils l'ont sous-estimé.
Mais quand vous lisez et vous analysez ce que vous faites, le Donald Trump dans le texte, quand il dit « ils sont étranglés » en parlant des Iraniens, comme un cochon farci. Là encore une fois, on est de la communication politique pure et dure. Il s'adresse à son opinion publique, mais la réalité.
Au MAGA de son opinion publique.
Au MAGA.
Il y a des tranches.
Oui.
Ce qui explique la diversité d'expression du Trump. Parce que vous avez le Trump provocateur. Il parle au MAGA. Vous avez le Trump entre deux, il parle aux républicains, pas tous MAGA. Puis vous avez l'autre Trump, celui qu'on découvre après la tentative d'assassinat ou d'attentat au dîner des correspondants, posé, mesuré, zen. Et tout le monde s'est dit, mais qui c'est celui-là?
Zen, et juste parenthèse, qui a possiblement échappé aussi à une tentative d'assassinat.
Mais zen.
Comme si, et depuis samedi dernier, ça n'existe
parce
plus.
Parce qu'il est l'élu.
Il est l'élu.
Parce qu'il a survécu à Butler, la première tentative d'assassinat, vous savez, l'oreille,
fight. En plein meeting.
Et donc, il est dans une autre dimension. Et ce qu'on ne comprend pas, c'est qu'on a plusieurs Trumps dans le Trump. Ce que j'écris dans mon livre, c'est justement ça, la diversité des Trumps, qu'il faut pas s'arrêter à la vision provocatrice qui crée chez nous de la sidération. Et donc, on s'arrête de penser tellement on est choqué par cet hurluberlu agressif et grossier. Et on ne se rend pas compte qu'il y a l'autre, celui qui voit vos collègues de The Atlantic, qui en fait, du coup, 33 pages de éberlué par la la gentillesse de Trump qui lui fait des petits gâteaux, du thé glacé, et qui lui téléphone à 6h du matin pour faire visiter ou vos collègues de la Maison Blanche ou vos collègues du New York Times, 4 qui viennent l'interviewer alors qu'il insulte New York Times à peu près matin, midi et soir, et encore j'ai dû en oublier, et qui sont
et
là.
Et pas que le New York Times d'ailleurs, ouais.
Mais ça tombe, voilà.
Tout le monde y passe,
et,
oui.
Et qui sont là, et avec un accueil charmant, aimable, et qui se disent, mais qui est cet individu? Où est le vrai Donald Trump? Il y a plusieurs Donald Trump. Mmh. Il s'oriente en fonction. Il a tout appris de la télé-réalité. Il en a fait de la télé-réalité politique. Il en fait de la télé-réalité militaire.
Mais est-ce que vous pensez qu'il
mais
fait...
Mais tout est scripté.
Tout est scripté. Mmh. Est-ce que vous pensez qu'il fait aujourd'hui le pari du fait qu'un blocus prolongé,
oui,
quoi qu'il en coûte,
oui,
même sur son opinion, parce que dans son pays, on va y revenir aussi, c'est un
le
coût.
Le galon,
hein,
est plus cher.
Le galon est plus
mais
cher.
Il a un moyen qu'il n'a pas encore utilisé.
Mais est-ce qu'il fait ce pari-là, quitte,
oui,
à ce que ça coûte,
oui,
que finalement le pari risqué là aussi de nouvelles frappes risquées, incerteuses,
ces délais ne sont pas les nôtres. Lui, il a un délai qui est alors qui aurait dû être le 30 avril, mais il a mis 4 jours à signaler qu'il était plus ou moins en guerre. Là, il a en cessé le feu, donc il pourrait même dire qu'il n'est plus en guerre. Mais il doit aller au Congrès le 2 mai, donc dans 3 jours.
Absolument, samedi prochain.
Voilà, samedi prochain pour dire bon bah on est plus ou moins en guerre, ou alors il va argumenter qu'il n'est pas en guerre. Le Congrès va avoir 30 jours pour trouver un moyen de ne pas discuter de la question avec un blocage des républicains, même s'il y a des divisions sur la question de la guerre avec les républicains.
Parce que les élus lui demandent des comptes, là,
oui,
aussi.
Oui, certains.
Certains.
Un petit nombre. Le 14 mai, il va voir le président Xi Jinping. Ça a déjà été reporté une fois, ça va être difficile de le reporter une deuxième fois. Il fait monter la pression un peu partout, à Panama, à Malacca et un peu partout, en disant « J'ai les moyens, tu as les terres rares, mais moi j'ai le reste ». Donc attention, parce que je contrôle. Il y a huit détroits et deux canaux. Je dis pas canaux parce que Suez et Panama c'est pas Venise. Et donc j'en contrôle la quasi-totalité. Donc il va bien falloir qu'on se mette d'accord parce que moi j'ai compris le rapport de force. Et donc mon rapport de force et ton rapport de force sur les terres rares, il va falloir qu'on s'équilibre. Et puis il a un troisième problème qui est le 250e anniversaire de la création des États-Unis, où il a impérativement besoin d'annoncer une victoire qui n'est pas seulement l'annonce de la victoire par Donald Trump, car de toute façon il sera victorieux puisque ce sont les règles de Donald Trump.
Quoi qu'il se passe, il l'a déjà annoncé,
voilà,
cette victoire
d'ailleurs.
Devant le roi Charles, par exemple, en visite.
Mais là,
tout
il va
le temps.
Falloir l'argumenter un peu plus. Il va falloir une victoire sur un plateau, quelque part, pour justifier l'arc de triomphe et le nouveau passeport à sa gloire. Et là, il va avoir besoin de quelque chose. Donc, mais il a des dates qui ne sont pas les mid-termes. Les mid-termes, c'est dans très, très, très longtemps.
Les élections demi-mandat. Mais Alain Bauer, vous avez l'air de minimiser le fait que, en effet, certains élus démocrate, son opposition, mais pas que aussi, son propre camp lui demande un peu des comptes. Je le disais, il y a ses auditions devant le Congrès, Pete Hegseth hier par exemple, et des chiffres qui donnent un peu le tournis quand même. L'audition qui portait officiellement sur la demande de cet exécutif américain d'augmenter de 42% le budget américain de la défense, déjà faramineux, le prochain absolument, et le porter à 1500 milliards de dollars. Ce sont ça ces chiffres qui sont mentionnés. Est-ce que ça l'opinion américaine dit OK, peut suivre le président?
Sans aucun problème.
Sans aucun problème, selon vous.
Le prix de la guerre aux États-Unis n'est pas un sujet. La manière dont l'argent est dépensé en est un, mais ouais, c'est pas la même chose. Donc, faut pas surestimer la qualité de l'opposition démocrate qui a montré son incapacité à faire quoi que ce soit pour empêcher Donald Trump de sa réélection. Quand même un sujet en tant que tel, hein, pour les cours de sciences politiques, ça va rester dans les livres de comment un retour pareil a été possible jusqu'à aujourd'hui. Non, la vraie question sur Donald Trump, c'est l'écart entre « je ne ferai plus jamais de guerre » et cette guerre, mais c'est pas sur le prix qu'il faut, l'argent ou le budget qu'il faut donner au Pentagone. Il n'y a pas de débat.
Parce que c'est un pays qui a toujours vanté, oui, et on le sait, ses vétérans, à quel point on les vénère, c'est une culture.
Moi, pendant la guerre du Vietnam, comme vous savez, c'était une grande crise culturelle et quasiment psychiatrique aux États-Unis, l'absence de gestion des vétérans. Là, on est plus dans le profil du guerrier, le retour du guerrier. Et d'ailleurs, c'est toute l'architecture de la pensée MAGA trumpienne, c'est Make America Great Again, ça veut dire un empire. C'est le retour de l'empire. Il est hémisphérique. Il y a d'un côté eux, de l'autre côté les Chinois, et nous au milieu, c'est la zone de prédation.
Mais comme ici et comme dans notre pays, des sondages, des enquêtes d'opinion sont faites, 68% des Américains désapprouvent, dont 52% très fortement, la gestion de l'inflation et du coût de la vie par Trump. Ça aussi, c'est une réalité politique pour lui. C'est le prix du galon. Avec lequel il doit aussi gérer et rendre des comptes.
Mais il considère que justement, pour en sortir, il faut remettre une pièce dans la machine et pas faire retraite puisqu'il ne fait jamais retraite. Donc il faut qu'il trouve une voie parallèle de sortie. La voie parallèle, c'est soit j'ai gagné parce que les Iraniens seront bien obligés de me donner quelque chose et pour cela j'ai besoin du blocus, en tout cas de barrage filtrant qui n'est pas un vrai blocus, parce que j'ai besoin d'un accord pour que les Chinois fassent pression sur les Iraniens, parce que je gère avec les Russes pour qu'ils fassent pression sur les Iraniens pour revenir grosso modo à l'accord de Vienne en moins bien, probablement, mais en tout cas je pourrais dire que j'ai gagné, parce que ensuite j'ai aussi besoin de faire des frappes ciblées si vraiment les Iraniens n'ont pas tout compris, parce que il y a eu un coup d'État en Iran, ça n'est plus une monarchie, les mollahs ne sont plus au pouvoir, c'est un petit cercle qui s'appelle le cercle Habib, qui sont des anciens combattants de la guerre Iran-Irak, qui contrôle et truste l'intégralité des postes exécutifs du pouvoir iranien.
Des frappes ciblées à Alain Bauer, parce qu'aussi il y a cette question de l'uranium enrichi, qui, selon, alors parole contre parole, mais vraisemblablement le stock d'uranium n'a pas été du tout touché par ces frappes américano-israéliennes, qu'il est toujours en état, sans doute, et que, pour le coup, c'est une partie de l'échec aussi américain à cette heure.
Alors d'abord, il n'y en a pas 440 kg, il y en a 10 tonnes.
10 tonnes d'uranium.
De 2% à soi-disant 60%, voire plus. Donc, premièrement, il y a un sujet plus large qu'on imagine. Il y a ce qui est toléré, moins de 10%, qui peut aller pour des raisons médicales, de recherche, etc. Et puis, il y a le reste. Voilà, le reste, c'est l'écart entre ce qu'on sait et ce qu'on ne sait pas. Même l'AIEA a un peu de mal, l'Agence internationale de l'énergie, à savoir exactement où on en est, puisqu'elle n'y est plus depuis déjà plusieurs années. Et deuxièmement, on ne sait pas où est cet uranium. On pense que peut-être une partie serait à Ispahan. Peut-être. Mmh. On découvre,
connaissait
4 sites, 3 ont été bombardés. La montagne de la Pioche n'a jamais été parce que c'est imbombardable. C'est un vrai sujet tellement la roche granitique empêche tout effet réel de. Et puis on a découvert un 5e site inattendu, Minjidai, au nord-est de Téhéran, où il y avait à la fois des centrifugeuses et de quoi commencer à réfléchir à fabriquer une ogive nucléaire. C'est-à-dire qu'on est plus au seuil, comme cela a été pensé avant, on est dans la préparation éventuelle de construction.
Et ça, le renseignement américain et israélien l'ont senti.
C'est pour ça qu'ils ont bombardé Minjidai, pour dire on sait où c'est, on sait ce que vous avez fait, et donc il y a poker menteur avec Donald Trump, échec menteur avec les Iraniens, tout le monde ment. Mais le renseignement fait à peu près bien son travail. Après, ce sont des décisions stratégiques ou tactiques. Une guerre, c'est une stratégie. On sait où on va à la fin et c'est des changements tactiques toutes les 3 minutes. Parce que c'est comme ça, la
D'autant
guerre.
D'autant plus avec Donald Trump. Un dernier mot, Alain Bauer. Oui. On arrive vraiment dans les dernières secondes. Exercice Orion 26. Oui. Le président français est attendu aujourd'hui pour la préparation des armées face à un conflit de haute intensité. Quand on dit que ce n'est pas notre guerre, il n'y a pas un message un peu contradictoire ou c'est complémentaire de votre point de vue?
Non, ce n'est pas encore notre guerre et par ailleurs le vrai problème n'est plus la haute intensité mais la longue intensité, la dronisation, la miniaturisation, là où on a des start-up absolument performantes et une incapacité à rattraper notre retard stratégique malheureusement, mais tout le monde fait des efforts, on va peut-être y arriver un jour. En tout cas, l'armée de terre l'a fait, l'armée de l'air commence à le refaire. On est vraiment dans un travail considérable mais avec un retard tout aussi considérable. Les dividendes de la fait c'est bien, mais si tu veux la paix, prépare la guerre.
Alain Bauer, merci beaucoup d'avoir été notre invité. Je rappelle votre livre Trump, le pouvoir des mots. Merci beaucoup. Il est 8h47 sur RMC et BFM TV.
Merci beaucoup Marie Chantré. C'était le face-à-face dans quelques toutes petites secondes. C'est face à Canteloup sur RMC. À tout de suite.
RMC, Apolline Matin.
8h50, face à Canteloup.
C'est pas 50 nous sur RMC tous les jours, l'info revisitée par Nicolas Canteloup et Alain Bauer était l'invité du face à face ce matin. Il est resté avec nous. Rebonjour Alain Bauer.
Bonjour.
Et Nicolas Sarkozy voulait réagir à cette interview.
Bravo la régie, très drôle, très bonne. C'est pas très gentil, monsieur Meillard, ça vous ressemble pas. Enfin bref, je me permets de saluer amicalement Alain Bauer, parce que peut-être que vous le sachiez pas, mais j'ai souvent fait appel à Alain pour me conseiller, comme c'est un grand criminel, c'est un grand, tout le monde le sait, un grand criminel. C'est un spécialiste des conseils sur quoi qu'il faut faire pour pas se faire gauler quand on est coupable d'avoir rien fait. Donc je suis pile dans la cible. En tout cas, voilà, Alain Bauer, faut le dire. C'est vraiment un grand crimologue.
Ah oui, auteur de nombreux ouvrages sur le sujet d'ailleurs.
Oui, alors ça, L'auteur d'ouvrage, ça c'est le mauvais côté d'Alain Bauer. Mais oui, parce que monsieur, je sors un livre tous les 15 jours, c'est un concurrent direct pour moi, ça m'impacte dans mes ventes. J'arrive pas à suivre, moi, son rythme. Puis faut, moi, parce que moi, il faut que j'ai l'inspiration. Et moi, je la trouve où, l'inspiration? Je la trouve en prison. Et ça tombe mal, parce que, innocent comme je suis, comment que je fais? Je vais quand même pas tuer quelqu'un, vendre de la drogue ou violer Gisèle Pélicot. Tout ça pour écrire mon volume 2 du journal d'un prisonnier.
Merci, monsieur Nicolas Sarkozy.
Je sens que Gisèle Pélicot, c'est pas possible.
Oh. Alain Bauer est toujours avec nous. Alain Bauer, l'attaque contre Donald Trump le week-end dernier était-elle inévitable?
Pas du tout. Cette attaque était même, à l'évidence, préméditée. Et j'en parle d'ailleurs dans le livre que j'ai écrit 2 heures après l'attaque, dont j'ai bien sûr adressé un exemplaire au garde du corps de Monsieur Trump, ce qui s'intitule « La protection rapprochée pour les nuls ».
Alain Bauer, l'Iran et les États-Unis vont bien finir par trouver un terrain d'entente.
Pas du tout. Et d'ailleurs, vous le sauriez si vous aviez lu le livre que j'ai sorti avant-hier, le 23e depuis le début de l'année, et qui s'intitule « Géopolitique du Moyen-Orient, moustache qui frise et sourire en coin ».
En attendant, le détroit d'Hormuz reste bloqué.
Pas du tout. C'est une illusion d'optique. Le détroit d'Hormuz n'est pas bloqué. D'ailleurs, je ne comprends pas que les plus grands experts puissent se tromper à ce point alors qu'il s'agit tout au plus d'un barrage filtrant. Et il y a des navires qui passent. Je l'explique d'ailleurs dans mon livre qui est sorti hier et que j'écrirai dès la semaine prochaine, qui s'intitule « Le détroit d'Hormuz pour les buses ».
Non mais les Français s'inquiètent pour leurs vacances d'été. On peut raisonnablement penser que d'ici là, tout sera calmé.
Pas du tout. Je pense au contraire qu'on va vers un blocage total et durable. Mais ça n'empêchera pas néanmoins les Français de partir en vacances. Alors certes, c'est mon conseil, pas sur les plages iraniennes. J'en parle d'ailleurs dans mon nouveau livre qui sortira pour l'été, qui s'intitule « Géopolitique et bikini », mais sans recette minceur.
Merci Alain Bauer de nous avoir éclairé. Grâce à vous, on en sait un peu plus.
Pas du tout. Tout le plaisir était pour moi. Monsieur Béliard, j'étais ravi de venir vous contredire.
Eh bien, merci Alain Bauer. Et tout de suite, on retrouve Stéphane Bern pour les titres de l'actualité.
Oh oui, oh oui, oh oui, bonjour Mathieu. Mathieu, le dauphin qui, en l'absence de la reine Apolline, règne sur cette matinale jusqu'à demain, avant de regagner la ville si chère à son cœur et à celle de François Mitterrand, Château-Chignon.
Oh, celle-là, elle est un petit peu tirée par les cheveux.
Je suis tellement en forme, j'en rajoute. Allez, c'est parti pour les titres. Après l'annonce d'une hausse de plus de 50% de ses bénéfices, Total Energy est accusé de bâtir sur le dos des Français un véritable empire. Et on appellera ça l'empire d'essence. J'attends 2 secondes que Thibaut Texer les comprend. Ouais. Et puis on vient de l'apprendre, avec la hausse des prix du gaz au 1er mai, le tarif des crémations pourrait fortement augmenter. Alors est-ce que ça va faire comme dans les stations-service? Je pose la question. Est-ce que les gens vont se ruer dans les crématoriums pour échapper à la hausse des prix? Pas sûr.
Merci Stéphane. Le président américain est avec nous. Bonjour Monsieur Trump.
Hey, salut Béliard. Elle est où Apolline? Elle est où? Elle est pas là Apolline? Et le Bauer, il est où? Il est où le Bauer? Il est où? Il est où? Il est là. Ah oui, c'est une chanson de saison puisque demain on est le 1er mai.
Vous connaissez Alain Bauer?
Oui, Bauer, il est géopolitologue. Il est expertologue, criminologue, mais moi j'aurais préféré qu'il soit Kiliminog. Bauer, c'est un good guy, good guy. Il a les bonnes analyses, il me connaît bien, il sait qu'il parle parfaitement le Donald Trump en troisième langue. Et il dit toujours, et ça j'aime bien savoir, il dit toujours que je suis pas fou. Comme Walt Disney, Donald, il n'est pas dingo.
Merci, Monsieur Trump. Face à la hausse du prix du kérosène, les compagnies aériennes commencent à annuler des vols pour cet été et les Français s'inquiètent pour leurs vacances. Le président de la SNCF, Jean Castex, est avec nous.
Pas d'inquiétude. inquiétudes inutiles. Je suis là pour rassurer les Français. Pas de stress, il y a Castex. Pourquoi vouloir s'envoler pour Djerba ou Mykonos quand Charleville-Mézières est à portée de wagon? Mallorque, Mallorque, c'est surfait, les Baléares. Laissez-vous tenter par Vierzon. Beauvais, c'est beau, Beauvais. En tout cas, grâce à SNCF, les Français, je m'y engage, partiront en vacances. Voilà. Et en tout cas, le trajet aller sera assuré. Le retour, ça, c'est pas gagné.
Ah, ça promet.
Ah, mais attendez, nous allons quand même publier pour les usagers un guide pour les aider à passer de bonnes vacances grâce à SNCF. Le guide du retard.
Non, le guide du routard.
Non, le guide du retard. Avec des conseils pratiques.
Ah oui. Hein,
des exercices de yoga, de méditation pour accepter un petit retard de quelques heures. Hein, des exercices de cohérence cardiaque pour ne pas monter en tension quand on voit marqué train annulé. Hein, et même des méthodes pour apprendre à dormir assis quand un train est arrêté, bloqué toute une nuit en raison d'un sanglier dépressif qui s'est jeté sur les voies. Hein, vous voyez quand SNCF, vos vacances s'annoncent inoubliables. Bon, écoutez, je m'arrête là parce que j'entends, je vois, oui, le train des grandes gueules va bientôt partir, comme d'habitude. Le cheminot Truchot est un RTT, et le chef de gare avec sa petite casquette et son sifflet, Marshall, est en train de s'impatienter.
Merci beaucoup. Merci Nicolas. Face à Cantelou, qu'on retrouve dès demain à 8h50 sur RMC, à tout moment en podcast. Dans un instant, les grandes gueules, vous l'avez compris. Bonjour Alain Marchal, quel est le programme?
Bonjour Mathieu et bonjour à tous. Les grandes gueules vous attendent en direct dans un instant sur RMC et RMC Story. Charles Consigny, l'avocat, sera là, tout comme Flora Gebali, la militante écologiste, et Laura Varton-Martinez, la sophrologue. On va évoquer bien sûr la crise des carburants. Total qui décide de maintenir, vous savez, la ristourne dans ses prix à la pompe. Plutôt que la taxe, est-ce que finalement c'est pas la meilleure solution, cette ristourne ou ces prix capés? 32-16 pour venir en discuter avec les GG, avec les grandes gueules. Nous sommes à la veille du 1er mai, on va essayer de comprendre qui pourra ouvrir et qui restera fermé. Et puis nous recevrons le député de l'Essonne, Jérôme Guedj, pour évoquer la situation à gauche. Ils sont nombreux sur la ligne de départ de l'élection présidentielle. Il y a même les anciens, l'ancien Premier ministre Bernard Cazeneuve, l'ancien président de la République François Hollande. Enfin, ils s'y préparent, ils y songent. Est-ce que c'est vraiment bon tout ça, bon pour le pays? Voilà, vous venez commenter tout ça avec les grandes gueules. À tout de suite en direct de 9h à midi.